Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Léa. À 28 ans, Léa rentre dans sa 10e année d'études. Un parcours semé de doutes, de stress, mais surtout d'un travail acharné et d'une envie inébranlable, exercer la médecine. Bonne écoute. Bonjour Léa.
Bonjour Marielle.
Comment vas-tu?
Eh bien, ça va très bien, et toi? Je suis un petit peu impressionnée.
Mais tu vas voir, c'est normal, on est impressionnée pendant 20 secondes, et puis après tu vas avoir l'impression que tu ne discutes qu'avec moi. Je te promets que ça va bien se passer. On disait en off, Léa, que tu as la gentillesse de m'accorder un peu de ton temps dans un quotidien qui est bien rempli. On était en train de parler de jours off, de récupération, d'heures, de garde, etc. Donc merci en tout cas de me dédier quelques heures, parce que avec l'avant, l'après, etc., on a quand même quelques heures ensemble, donc un grand merci. Merci pour ça.
C'est avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir.
Léa, pour commencer, écoute, la petite présentation qui va bien. On t'écoute.
Eh bien, donc je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, bientôt 28 maintenant. Je suis interne d'anesthésie-réanimation. Je suis en 5e semestre sur 10 semestres. On reviendra, je pense, sur l'explication de ce qu'est un interne, combien de temps ça dure. Donc voilà, je suis à peu près au milieu de mon cursus d'interne, mais pas au milieu de mon cursus d'étudiant en médecine, même si maintenant je suis plus vraiment étudiante, puisque maintenant ça fera 10 ans cette année que j'ai commencé mes études de médecine, que j'ai passé mon bac et donc que je me suis lancée dans cette longue aventure.
C'est ça. Alors justement, est-ce que du coup, pour toi, les études de médecine, c'était une évidence? C'était un chemin tout tracé? Comment ça s'est passé?
Eh bien, quand j'étais vraiment petite, je devais avoir 6-7 ans, je voulais être hôtesse de l'air après un voyage en avion. Et puis, quand même, on m'avait convaincue de faire pilote parce que pilote, c'était mieux. Voilà. Et en fait, rapidement, je devais avoir 8-9 ans, autour du CM1, CM2, je vois un téléfilm à la télé où il y avait une femme médecin-pompier et ça m'avait beaucoup parlé. Après, dans ma famille, quand même, personne n'est médecin, mais tout le monde gravite un petit peu quand même dans le milieu médical ou paramédical ou l'industrie pharmaceutique. Donc quand même, j'ai baigné dans ça. Et donc, j'ai rapidement dit que je voulais être médecin et je crois que ça ne m'a jamais quittée, à tel point que pour la petite anecdote, ma maman m'avait dit « Très bien, ma chérie, tu vas vouloir être médecin. Maintenant, les cours d'histoire, c'est par cœur. »
Donc j'ai la préparation en bonne et due forme.
Voilà, parce que il y avait vraiment cette imaginaire collectif qui est quand même pas si faux, qui a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses qui sont par cœur. Alors c'est quand même un petit peu à modérer parce que si on comprend pas ce qu'on apprend, on n'arrive pas à l'apprendre, surtout quand les quantités d'informations sont très importantes. Mais du coup, voilà, ma maman qui suivait de près nos études m'avait déjà entraînée à apprendre par cœur dès le CM1 ou CM2. Je me souviens réciter mes cours d'histoire à la ligne.
Voilà. Donc. Bon, alors ça a probablement dû te servir pour la suite, du coup.
Oui, c'est vrai que ça a servi. Après, je sais pas s'il y a des parents qui m'entendent dont les enfants veulent faire médecine. Je suis pas sûre que
c'est sûr.
qu'il faille appliquer ça à la lettre. Non plus.
Ok, et alors du coup, comment ça se passe la suite de ton parcours d'études? Donc, mettons quand tu arrives au lycée par exemple, quelle décision tu prends?
Et bah du coup, donc au lycée, moi j'étais très scolaire, j'ai toujours été vraiment, je pense, dans les premières de la classe, mais avec beaucoup de travail. J'y reviendrai parce qu'on a tous des profils assez différents en médecine, donc toujours avec beaucoup de travail. Je pense que c'est important de le dire parce que parfois c'est un peu valorisé d'y arriver sans faire beaucoup d'efforts. Moi j'ai quand même toujours beaucoup travaillé au collège, au lycée. Au lycée, je fais une première et une terminale scientifique. Alors, je me sens un peu vieille maintenant parce que ce bac n'existe plus, mais dans l'idée, une première et une terminale scientifique. Je fais le choix, et je pense que c'est pas mal de le dire, de ne pas faire. Il y avait des options à l'époque, et moi, je ne fais ni des physiques, je ne fais ni de la physique, ni de la SVT. Je prends les maths parce que j'étais quand même plutôt matheuse. Même si on m'a dit oui, la SVT, c'est mieux pour la première année de médecine. Bon, je pense qu'à posteriori, on peut dire que franchement, je suis pas sûre que ça change grand chose, mais Voilà, donc je fais une option mathématiques, je passe mon bac sans trop d'encombre, avec une mention très bien, voilà, donc j'étais quand même une très bonne élève, et c'est là je le dis pas pour me faire mousser, mais c'est parce que ça va avoir un peu d'importance pour après. Et donc tout mon cursus, moi on m'a dit, non mais Léa, c'est sûr, médecine ce sera dans la poche, tu vas y arriver, et du premier coup, puisque à l'époque où j'ai passé la première année de médecine, maintenant c'est plus le cas, mais on avait cette possibilité de redoublement. Et donc, je passe mon bac et moi, j'ai grandi en région parisienne et donc je dépendais de fac parisienne de médecine. Et il s'avère que mes parents, eux, sont d'une ville de province et donc, en fait, me laissent la possibilité de soit de faire mes études de médecine en région parisienne, soit en province. Et donc, en fait, je fais le choix de faire une demande dérogatoire et je pars faire mes études de médecine dans une ville qui s'appelle Angers pour deux raisons, parce que c'était plus facile de se loger là-bas pour des questions de coût. Et puis, surtout, il y avait une petit avantage, puisque nous, à Angers, on était 1200 inscrits en première année de médecine pour 180 ou 182 places. Et donc, si on faisait le prorata de nombre de personnes qui passaient le concours versus le nombre de places, c'était un peu plus avantageux que la région parisienne. Voilà. Ou a posteriori, je ne sais pas si ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce genre de calcul, ça change beaucoup. Mais voilà, il y avait ce petit avantage. Et donc, à 18 ans, je quitte la maison familiale pour vivre dans un appartement et commencer mes études de médecine.
Donc, le grand bain.
Effectivement, le grand bain, je me souviens avec émotion. mes parents qui me disent au revoir là, le 3 septembre. et fermer la porte de mon studio et me dire « Ok,
maintenant, va falloir bosser. »
Là, ça rigole plus du tout. Maintenant, va falloir bosser, effectivement. Et pour le coup, je ne sais pas si je conseille forcément de tout quitter, sauf si c'est son choix. Hein, mais finalement, moi, j'ai commencé sur les bancs de la fac à Angers et je ne connaissais personne. Voilà, parce que j'avais de la famille, donc un entourage qui était très proche. Mais bon, bah, ma famille n'allait pas avec moi sur les bancs de la fac. Et donc, je ne connaissais personne. Donc ça, c'est quand même une première difficulté. Et donc, je commence par une prépa, je me souviens. Nous, on n'avait pas, je sais que dans les grandes villes, ça existe, mais nous, il n'y avait que le tutorat de la fac qui était strictement gratuite et il n'y avait pas vraiment de prépa privée puisque ça se fait beaucoup. Il y a un vrai business autour de la première année de médecine puis de toutes les études de médecine de préparation privée. Moi, je ne fais pas ce choix-là. Et donc, je commence par une semaine de tutorat où je rencontre un petit peu du monde et puis rapidement, le grand bain. Là, on se retrouve face à une quantité d'informations monstrueuse à apprendre. Vraiment, ça n'a rien à voir avec avec le lycée. Et toutes les semaines, on a ce qu'on appelle des calls. Donc, en gros, c'est sur des thématiques. On remplit des QCM puisque le concours de première année de médecine est sur des QCM. Ça a peut-être un petit peu changé, mais moi, à mon époque, c'était que des QCM avec des pièges qui sont parfois peu intéressants, genre cocher les réponses fausses. Vous voyez, comme d'habitude, de cocher tout le temps les réponses vraies.
Ouais.
Voilà, donc il y a un mode de sélection qui est peut-être un petit peu discutable, mais qui était comme ça. Et donc, je commence ces études en partant avec l'idée que tout le monde m'avait dit « Léa, ce sera facile, ce sera dans la poche, tu sais travailler, ça va bien fonctionner. » Eh bien, ça n'a pas marché, voilà. Nous, on avait deux concours, un concours en janvier, un concours en juin. Et donc, premier concours, donc 3 jours d'épreuve dans un espèce d'immense gymnase. Où on était donc 1200 tous assis, donc vraiment des frissons, puis on est tous très jeunes puisque moi j'avais pas sauté de classe ni rien, donc j'avais 18 ans.
Ouais.
Quand même, 18 ans, c'est un 18 ans tout rond, c'est pas évident. Et déjà sur les premières calls, j'avais des indices qui me faisaient dire que j'étais pas trop dans la course. Et donc je passe ce premier concours et je crois que je me retrouve, donc le numerus clausus était à 180 et je crois que je me retrouve 450e. En gros, milieu de promo. Et là, je me dis, bah, c'est un peu mort parce qu'en fait, le premier concours comptait pour la moitié de la note finale.
D'accord, oui,
la
c'est pas un concours blanc puis un concours, donc, c'est vraiment la moitié de la note. Ok.
Non, c'est vraiment la moitié de la note. Premier concours sur tout un tas de matières, premier semestre, premier concours, tout un tas de matières. Et après, c'est des matières qu'on ne fait plus au deuxième semestre.
D'accord.
Et voilà, donc c'est vraiment premier concours qui, je sais pas, peut-être, imaginons, c'est sur 1000 points, ça compte pour 500 points, quoi. Donc en fait, une fois qu'on n'est pas très bien classé à ce premier concours, eh ben c'est dur de rattraper.
Bien sûr.
Ou alors il faut devenir excellentissime sur le deuxième concours. Et là, moi, ben je perds confiance en fait. Et donc le deuxième semestre de ma première année de médecine est faite de je n'arrive pas à travailler. J'étais complètement pas démotivée, mais je crois que j'étais extrêmement déçue de de moi-même et aussi un peu de cette pression que j'avais eue autour familiale puisqu'on m'avait dit que j'allais réussir en un an. Et là, c'était pas ce qui était en train de se passer. Donc, vraiment, une grosse remise en question. Et je ne travaille pas. Alors, je me mets pas à beaucoup sortir. En fait, a posteriori, là, 10 ans après, j'ai du mal à me souvenir de ce que je faisais de mes journées, mais énorme blocage. Donc, j'avance quand même vers ce deuxième concours que je passe sans grande conviction. Et je crois que je finis l'année assez stable, autour de 480. Je travaille l'été, donc ça a été un peu difficile quand même de pas réussir du premier coup. Après quand même, mon entourage familial a été hyper important parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue et tout le monde m'a dit en fait après, à l'époque la plupart des gens faisaient deux années de médecine. C'était plus facile de réussir, enfin c'était classique de faire deux premières années de médecine que qu'une seule. L'été je travaille dans une usine pour me faire un petit peu d'argent et là déclic, je me dis en fait je vais pas pouvoir travailler dans une usine toute ma vie et donc vraiment je réfléchis en amont à comment je vais travailler, comment je vais m'organiser. Et dans l'intervalle, je fais une super rencontre sur Twitter, improbable, d'une fille qui était aussi dans ma fac et que je suivais en fait depuis quelques mois. Et j'étais persuadée qu'elle allait avoir le concours et elle était persuadée qu'elle allait avoir le concours. Et en fait, on s'envoie un message 3 jours après les résultats et elle m'envoie un message en disant « félicitations, t'as dû l'avoir ». Et je dis « écoute, non, je l'ai pas eu, mais félicitations, t'as dû l'avoir ». Et elle me dit « mais je l'ai pas eu ». Et donc, sur cette déception, on commence à discuter et on se fixe de boire un verre. Voilà, c'est Maureen, si jamais elle écoute ça. Et donc, on se boit un verre dans un café et là, on commence à discuter de comment on va redoubler notre année et comment on va travailler pour réussir. Et en fait, nous, dans notre fac, ça va avoir un peu d'importance. On avait cours le matin et le même cours était refait l'après-midi. Comme on était trop nombreux pour rentrer dans l'amphithéâtre, ils doublaient les cours. Et en fait, tous les bons venaient en cours le matin parce qu'il fallait travailler l'après-midi.
Ah oui, d'accord.
Et ça va avoir l'importance pour la suite, c'est qu'il faut savoir s'écouter et savoir quand on travaille le mieux. Et moi, j'avais identifié que quand même, je travaillais très bien le matin. C'est-à-dire entre 6h et midi, j'étais très efficace. Et après 14h, je l'étais beaucoup moins. Et Maureen me dit « écoute, moi aussi ». Et là, on décide de faire le truc à contre-courant total. Nous, on décide de travailler, de réviser nos cours le matin et d'aller en cours l'après-midi.
Ah, super.
Et elle me dit « banco, moi aussi, j'ai envie de ça ». Et donc, on s'allie toutes les deux. On va en cours l'après-midi où il y avait quand même une ambiance particulière dans les amphithéâtres puisque donc il y avait cette histoire de bisus et de carrés. Donc, les bisus, c'est ceux qui faisaient leur première année pour la première fois et les carrés, c'était ceux qui redoublaient. Et en fait, la plupart des carrés allaient en cours le matin et foutaient le bordel, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, un peu pour
déstabiliser.
Et en fait, l'après-midi, tous ces carrés n'étaient pas là, sauf nous, on allait en cours l'après-midi, mais on n'était pas là pour mettre le bazar. Et donc, en plus, les cours de l'après-midi étaient beaucoup plus sereins et on voyait beaucoup moins de monde. Et ça aidait vraiment à se mettre dans sa bulle de travail.
Et du coup, mettre le bazar pour les bisules qui sont là le matin, c'est stratégique aussi pour essayer de récupérer des places. Quelle est l'intention derrière? Du coup, toi, tu n'as pas fait partie de ces gens-là, mais comment tu l'as vécu?
Mais l'intention derrière, parce que je l'ai quand même vécu en première année, c'est de l'intimidation, en fait. Les bisous, vous l'aurez jamais. Donc, il y a vraiment une ambiance qui est extrêmement particulière. Il faut savoir quand même après que tous ceux qui passeront le cap sont des gens qui vont être amenés à travailler ensemble, puisque tous les médecins qui sont formés sont amenés à travailler ensemble.
Oui.
Mais d'emblée, il y a une compétition qui est extrêmement féroce et il y a une compétition au sein même même d'un groupe de copains, en fait. Même si on n'a pas envie de ça, en fait, on fait tout pour avoir un concours où il y a un certain nombre de places. Et donc,
c'est à
qui on donne les bonnes infos, avec qui on s'allie. Et donc, moi, j'ai quand même eu cette chance et je souhaite à tous ceux qui font leurs études de médecine de trouver une Maureen ou peu importe, mais en tout cas, un bon binôme, parce que, en fait, c'est hyper important. Et donc, nous, on a fait toutes nos premiers semestres ensemble, on passe... Donc là, on travaille beaucoup. Moi, je me lève à 5h30 tous les matins, y compris le dimanche. Voilà, c'est vraiment une régularité d'en faire avec beaucoup de pression parce que moi, je n'ai jamais envisagé autre chose que de faire médecine. Donc là, c'était vraiment rien que d'en parler, ça me remet dans l'émotion. c'était vraiment... Je ne voulais que ça.
Oui, donc l'enjeu, il était énorme. Si c'était, c'était ton objectif, ouais.
L'enjeu était énorme. Alors, on fait des calls toutes les semaines où les voyants sont au vert, toujours bien classés, toujours dans les temps. Donc, avec mon ami et mon ami était toujours mieux classé. C'était difficile pour moi parce que je me disais, bah, je suis pas à la hauteur. Il faut que je travaille plus encore et encore et encore. Et elle était très sereine. Elle savait qu'elle allait l'avoir. Elle était très sereine. Et c'était pas de la fausse modestie, hein, parce qu'au final, elle l'a eu. Mais elle était très sereine. Moi, j'ai un naturel hyper anxieux. Et avec, je dégage, je pense, de la confiance en moi. Mais au final, bah, la confiance n'est pas tant là. Et donc, à chaque petit moment de doute, j'étais submergée, quoi. J'ai beaucoup pleuré de stress. J'ai eu la chance quand même d'être vraiment soutenue par mes parents qui voyaient ma maman, c'était marrant, elle venait tous les 15 jours ou 3 semaines, elle me remplissait le frigo, elle me faisait mon ménage, elle m'emmenait au restaurant pour vraiment, en fait c'était sa manière à elle, elle pouvait pas
elle pouvait pas réviser à ta place, c'est une façon de t'aider,
mais elle me facilitait le quotidien, voilà. Donc bon an mal an, on arrive, donc on fait donc ça c'était septembre. Après on avait un concours blanc au mois de décembre. Alors, je me souviens plus bien des chiffres, mais quand même bien classé.
OK.
Donc là, les feux sont verts. Et là, on part sur un mois de révision complet entre début décembre et début janvier, y compris fête de Noël et Nouvel An.
Donc, oh, là, c'est dur, cette période. Moi, j'ai des souvenirs de copines comme ça. Tu dis, ah, en fait, le Nouvel An, non, c'est pas possible, je révise. Mais tu dis, ouais, elle joue sa vie.
Voilà, donc Noël, je me souviens travailler. J'étais en jogging, pas maquillée, pas coiffée. Et mon papa qui vient le 24 décembre à 18h en me disant, voilà, maintenant, ma chérie, il faut que tu ailles te doucher parce qu'on va profiter de la soirée. Mais le 25 décembre à 11h, je me souviens, j'étais en train de faire un concours blanc, quoi. Donc, c'était vraiment aucun répit. Alors, a posteriori, je pense que j'aurais pu me l'accorder, mais c'était trop difficile de prendre ce recul-là.
De lâcher prise, ouais.
Et pour ceux qui en autour, des gens qui passent ce type de concours, eh ben en fait, il faut laisser. Si la personne, elle veut travailler, alors il faut quand même faire attention à que ça parte pas dans des trucs complètement délirants. Ouais. Mais en fait, c'est difficile quand on est dans ce type d'état d'esprit de décrocher, quoi. Moi, je ne fête pas le Nouvel An. Je n'étais pas très attachée au Nouvel An. Ce qui comptait pour moi, c'était de dormir. Donc, le Nouvel An, je crois que je me suis couchée à 22h. Et puis, le lendemain, c'était reparti pour un tour. Donc, je passe ce concours avec l'immense chance, puisque ma maman dort avec moi à la veille du concours, m'emmène, me récupère dans la voiture entre chaque épreuve avec ma petite box. Mais je dis ça, ça peut paraître complètement... il y en a peut-être qui écoutent ça, mais vraiment, si on est parent et qu'on peut se permettre d'accompagner comme ça son enfant et qu'on a cette proximité-là, moi, je me sentais hyper chanceuse et c'était ma bulle, en fait. Ça me permettait de sortir et de pas voir les autres gens parler du concours, etc. Et donc, premier résultat de concours, là, donc, de cette deuxième année, très positif. Je crois que je suis 42e, quelque chose comme ça.
Ah, waouh!
Sur 1200. Donc là, on se dit, OK.
On est bon,
cool. On est bon. Mais quand même, j'avais bossé. Mon premier semestre de ma première année, j'avais bossé. Donc, j'avais des acquis. Et là, j'attaque le deuxième semestre en me disant, OK, j'ai rien foutu l'année dernière. Donc là, pression ultime parce que je me dis, c'est la dernière ligne droite. J'ai pas bossé au semestre d'avant et enfin au semestre de l'année d'avant, donc je pars de rien. Donc là, je me dis ok,
ouais, c'est bouché double.
Donc bouché double. La mauvaise nouvelle, la fac nous dit on arrête les cours l'après-midi. Donc là, grosse désorganisation. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rituels, etc. Et j'avais mon rythme en fait. Et là, on se dit avec Maureen, comment on va faire? On n'a pas envie. Puis en plus, comme l'amphi était plein, il fallait arriver vachement plus tôt le matin. Donc, il fallait être quelque chose comme une demi-heure avant dans l'amphi. Mais en fait, être une demi-heure avant, c'est une demi-heure de perdu. Et il faut vraiment se remettre dans l'ambiance où toutes les minutes comptaient, en fait.
Oui, c'est donc, ça. Chaque minute de la journée, elle est occupée à quelque chose. Donc, c'est prendre de l'avance pour être bien placé dans l'amphi, pour être sûr d'avoir une place. C'est cruel, quand même.
C'est cruel et c'était une perte de temps pour moi. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était une perte de temps. Et en plus, ça convenait pas à mon rythme. Nous, on avait pris nos petites habitudes. On travaillait chez nous le matin. On se retrouvait pour les cours l'après-midi. Puis, soit on rentrait chez nous, soit on allait un peu à la BU, parce que nous, la bibliothèque universitaire, qui fermait à 22h, donc qui fermait quand même très tard dans notre ville, et qui en plus était très agréable. Et là, la fac nous dit, par contre, les cours seront podcastés, en fait. Nous, on avait cette chance-là, parce que j'avais une fac hyper moderne, et donc c'était quand même il y a 10 ans, et les cours étaient podcastés, à la fois le son et l'image, qui étaient importés sur un serveur, et on pouvait les re-regarder, ou les regarder en direct si on n'était pas chez nous. Enfin, si on n'était pas dans l'amphi. Donc, vraiment très moderne. Et là, avec Maureen, idée de génie, avec l'aide de mon frère, je me mets, moi, à enregistrer les cours sur mon ordinateur. Et là, on décide de regarder qu'un cours sur deux. C'est-à-dire qu'on se faisait une confiance totale. Et donc, moi, je regardais un cours, je retranscrivais tout. Parce qu'on tapait chaque mot, hein, donc j'ai appris à taper hyper vite sur mon ordinateur. Et elle regardait un cours, moi je regardais un cours, et on s'envoyait nos documents Word avec le cours.
Oh, mais et là, quel binôme de choc, incroyable.
Et voilà, donc on se décide de faire ça, et là on se dit ok, on y va. Donc on avait un planning, on était hyper organisés, on avait un planning, on se faisait nos trucs, qui regarde quoi, en fonction de nos affinités. Donc parce qu'on avait plus d'affinités pour une matière ou une autre, et on s'envoyait les cours. Donc là, vraiment, on passe le cap supérieur. Et en plus, moi, l'année où j'ai passé donc la PACES, c'était la dernière année dans ma fac, puisqu'après la fac était pilote pour la réforme de la première année de médecine. Et donc, en fait, ceux qui étaient en première année, ceux qui étaient bisus, eux aussi devaient l'avoir en un an. Donc, en fait, ils étaient hyper féroces. Et donc, tout le monde, la compétition était un peu à son maximum. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on y arrive. Et donc, on fait ça, on poursuit, on passe à nouveau un concours blanc. Et là, au concours blanc, je suis pas très bien classée, genre 180 sur, pour 180 places. Donc, ma maman me dit, ça va aller quand même. Un peu juste, mais en même temps, j'étais 42 sur le premier semestre, donc j'avais un peu d'avance.
C'est ça.
Et en fait, donc là, moi, je vrille complètement parce que j'avais jamais été aussi peu bien classée, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte en regardant le listing que, en fait, les feuilles de réponse de QCM passaient dans des machines pour être corrigées. Mmh. Et en fait, ma copie a dû être passée avec une autre. Et donc, j'ai zéro à une matière. Donc, en fait, je suis dans le numerus clausus, mais zéro avec une matière. Mais ce jour-là, j'ai complètement vrillé. Je me souviens d'être dans un état de pleurs en disant, en fait, j'arrête tout, j'en ai marre. Et mais vraiment, c'est pour décrire, c'est un détail, hein, mais c'est pour décrire à quel point on devient complètement fou. Vraiment.
Ouais, on est aliéné par le travail. Enfin, ça. Puis c'est on l'entend, l'enjeu est énorme. Il y a de quoi être soucieux, quoi.
Il y a de quoi être soucieux. Donc, finalement, ils refont les classements, c'est feu vert. On repart pour 3 semaines de révision intense en pyjama chez soi. Et c'est vraiment parce que du coup, comme on n'allait plus en amphi avec ma copine, j'ai passé parfois 4 jours entiers chez moi sans sortir, même pas vider les poubelles. Donc vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou de s'imposer ça. Mais c'était le prix, en fait, à payer pour y arriver. Et donc, deuxième concours, très difficile sur le plan émotionnel parce qu'il y avait un petit peu des nouveautés. Moi, j'étais très anxieuse. On attend les résultats 3 semaines. Et là, je suis encore émue rien que d'y penser. Mes parents prévoient d'arriver pour 14h, puisqu'ils venaient donc de la région parisienne. Et donc, les résultats étaient prévus à 14h. Et en fait, 13h30, les résultats tombent et je me revois, je suis toute seule dans mon studio, je regarde. Et là, je suis 25e. Sur 1200 admise en deuxième année de médecine, rien que d'y penser, je suis encore émue. Et donc là, c'était bon, la vie s'offrait à moi. Et donc on fête ça évidemment, champagne et vraiment là c'est le bonheur absolu. On va chez mes grands-parents qui habitaient à côté. Avec ma copine, on boit du champagne. Enfin, vraiment, c'était fou. Maureen, pour ceux qui se posaient la question, était aussi reçue excellemment.
C'est ce que j'allais dire, Maureen.
Vraiment, on s'est tombé dans les bras. C'était fou comme émotion, quoi. Et donc là, j'ai 19 ans. Ça y est, c'est parti.
Il y a une porte qui s'ouvre, quoi. C'est incroyable.
Et c'est vraiment, on accède à un statut. Enfin, voilà, là, j'allais être médecin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu ce concours, globalement, après, il faut passer des épreuves, etc. Mais on sait que si à peu près on travaille, de toute façon, au bout, on sera médecin. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la carte pour devenir médecin. C'est un peu comme si on vous donnait le trophée, là, comme ceux qui gagnent la Coupe du Monde en disant, ça y est, c'est fait. Là, maintenant, vous allez être médecin. Médecin de quoi? On sait pas parce que
on sait pas
ça, ce sera le deuxième concours. Alors ça c'est. Mais et ça on mesure pas que le chemin après est plein d'embûches. Mais voilà, là ça y est, on est parti. Deuxième année de médecine. Donc là on est en juin Et ben on s'apprête à vivre un été de fête, il y aura l'intégration, etc. Et moi, donc, c'est ce que je te disais en off, malheureusement, la vie me percute un petit peu, puisque 3 jours après ces résultats, mon papa a un grave accident. Il est hospitalisé 1 semaine en réanimation et à l'issue de cette semaine, il décède. Voilà, donc moi, j'ai 19 ans, mon papa en a 53. J'étais très très proche de lui et donc là ma vie un peu, c'est-à-dire que je suis passée de d'une joie immense qui est celle de réussir le concours à une tristesse infinie qui est en fait de se rappeler que eh ben la vie en fait c'est pas juste de réussir un concours, c'est ses proches, c'est ceux qu'on aime et là moi je suis un peu balayée. Donc c'est sûr que ça a un peu entaché ce bonheur immense. Et ça aura un petit peu d'importance puisque après quand je suis arrivée en 2e année de médecine, tout le monde était heureux de ça et moi j'ai vécu l'intégration un peu difficilement parce que moi je m'étais rendu compte qu'en fait ce qui était important dans la vie c'est ceux qu'on aime et un tout petit peu moins la réussite professionnelle ou la réussite du concours et je crois qu'à ce moment-là j'aurais pu donner cette place au concours pour que ce que je vivais sur le plan personnel ne soit pas là en fait mais
bien
bon
sûr, bien sûr.
J'avais pas le choix. Donc voilà, un petit peu comment les études ont commencé pour moi.
Bon en tout cas ton papa il aura su que tu étais sur la bonne voie
exactement,
pour devenir
exactement.
Médecin.
Exactement.
C'est... De
exactement.
Là où il est, il veille sur toi et je pense qu'il regarde ça d'un œil ému, mais vous avez pu célébrer cette très très belle nouvelle ensemble.
Absolument.
Du coup, après cet été, tu démarres ce qu'on appelle la période de l'externat. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais est-ce que c'est
absolument,
bien ça?
Absolument, absolument. Du coup, donc pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas, donc les études de médecine, on va pouvoir dire que c'est divisé en 3 grandes étapes. Mm-hmm. Il y a donc la première année de médecine. À l'issue de cette première année de médecine, on ne valide pas aucun diplôme. C'est-à-dire que si je m'étais arrêtée après cette première année de médecine validée, on ne valide rien sur le plan licence, master ou doctorat, parce que c'est comme ça que les études quand même de médecine sont calquées, puisque les études universitaires en France sont faites comme ça, en fait, tout simplement. Donc, la première année de médecine ne valide rien, hormis le fait d'être médecin un jour, mais sinon, sur le plan administratif, ne valide rien. Et donc, après, on va rentrer dans... pas l'externat, là, les 3 premières années de médecine qui correspondent, donc, ça s'appelle, j'espère que ça n'a pas changé, le diplôme de formation générale en sciences médicales, qui valide un grade, un grade licence. Ouais, ça va être très pompeux. Un grade licence. Et donc, ça, c'est 1ère, 2ème et 3ème année de médecine, qui sont,
d'accord.
Donc, la première année de médecine est assez théorique. À vrai dire, la 2e et la 3e année de médecine aussi, où on fait pas vraiment de stage. En tout cas, nous, à Angers, on fait pas vraiment de stage. Et au milieu de la 3e année de médecine, on commence les stages. On commence un peu l'externat en avance. Mais officiellement, en fait, l'externat ne commence qu'à partir de la 4e année de médecine.
D'accord.
À partir du moment où on a validé ce fameux diplôme de formation générale en sciences médicales. Et donc, après ce diplôme de formation générale en sciences médicales, on prépare la 2e partie, qui est le diplôme de formation approfondie en sciences médicales.
Très
qui
bien.
Dure aussi 3 ans, qui se finit par le concours de l'internat et qui valide un grade master. Mais en réalité, c'est un cursus en 6 ans, mais qui, au final, valide un grade master. Et quand
d'accord.
on a validé ces 3 premières années, on commence officiellement l'externat. Et donc, l'externat, c'est quoi? C'est
à mi-temps.
C'est ça. En fait, je me dis, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce nom? Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais
oui.
Bon, ça s'appelle l'externat. Et donc, on devient externe en médecine. Et donc, on fait à mi-temps du travail à l'hôpital. Nous, à Angers, c'était le matin, mais dans d'autres facs, l'organisation est différente. Donc, stage le matin et cours à la fac l'après-midi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cet externat? On a toute une pile de bouquins avec toutes les matières et tous ces cours qu'on prépare. Le but final, c'est de tout connaître pour le concours de l'internat, qui donc clôture l'externat et permet de passer au statut d'interne. J'espère que je l'ai bien expliqué parce que c'est pas
du
tout évident.
Non, c'est très
voilà.
clair.
Voilà. Et donc, on pendant cet externat, on a tous les, que je me trompe pas, tous les 6 mois, des partiels et on valide des matières. Donc la première année, c'est de la neurologie, de la maxillo, je sais plus ce qu'il y avait, de la psychiatrie. On valide les partiels et après, pouf, on met ces matières de côté et on en commence une nouvelle.
D'accord, on est vraiment par spécialité, une fois que la spécialité elle est abordée dans son ensemble, on passe sur une autre.
Exactement. Et donc, ça détermine notre socle commun pour toutes nos études de médecine, en fait. On apprend les bases de chaque matière. Et ça va quand même de manière assez poussée, puisque ces livres servent aussi de base pour quand on sera interne de chaque spécialité. Mais on apprend chaque spécialité.
Oui. Donc ça va quand même bien dans le détail de chaque spécialité.
Ouais. Absolument, voilà. Et c'est beaucoup de détails. Il faut ingurgiter, en gros, je crois que par semestre, ça devait être 5 ou 6 bouquins de 150 ou 200 pages. Donc, c'est quand même très fourni. C'est à nouveau, c'est-à-dire que la première année de médecine est difficile. Deuxième et troisième année de médecine, globalement, c'est pas trop dur, où on travaille pas beaucoup, on travaille juste pour valider, parce qu'en fait, on est clairement en train de se reposer de ce qu'on a vécu. Et quatrième année de médecine, là, ça y est, c'est le gros redémarrage. On se prépare à faire quatrième, cinquième et sixième année de médecine. Et au bout, il y a le concours de l'internat. Et là, on nous remet beaucoup en compétition. Puisque du coup, quand même, il faut imaginer que le concours de l'internat, on est en compétition avec que des gens qui ont eu la première année de médecine. Donc, c'est globalement que des gens qui sont brillants, en fait. Enfin, il faut quand même le dire, que des gens qui savent travailler.
C'est de la sélection dans un système qui est déjà élitiste. Enfin, oui, on est plus déjà en compétition avec des gens qui sortent du bac et qui tentent leur chance.
Exactement. Et donc, ça, c'est une pression qui est énorme. Et donc, suivant ce qu'on veut faire, en fait, le concours de l'internat, on est classé du premier au 8000e. Et plus on est bon, plus on a accès à toutes les spécialités. Voilà. Ce qu'il faut savoir, que malheureusement, en fait, si vous voulez faire, par exemple, de l'ophtalmologie qui est extrêmement prisée, ou la radiologie qui est devenue extrêmement prisée, il faut être très bien classé. Et donc là, ça rajoute. On se remet dans cette ambiance concours avec une charge de travail qui est énorme. Mmh. Et on découvre en même temps ce qu'est la vie à l'hôpital. Parce que jusque-là, quand même, on commence des études de médecine, mais on n'a jamais mis un pied à l'hôpital. J'ai oublié quand même, on fait un stage infirmier d'un mois entre la première et la deuxième année de médecine, qui nous permet quand même d'aborder un peu le milieu hospitalier. Mais bon, voilà, on fait un stage d'un mois, puis après, pouf, pendant 2 ans, il se passe plus rien. Et après, au milieu de la troisième année de médecine, on remet les pieds à l'hôpital. Alors, on se fait offrir un stéthoscope. Le premier jour, on a une blouse. Enfin, vraiment, c'est des premiers pas dans l'hôpital. Moi, je m'en souviens encore. C'est extrêmement impressionnant. On n'a pas les codes. Moi, je me souviens, je ne savais pas ce qu'était un chef de clinique. Je ne savais pas ce qu'était un assistant. Je ne savais pas ce qu'était un professeur des universités. Je ne savais pas ce qu'était un praticien hospitalier, pardon, qu'on appelle PH. Tout ça, c'est très nouveau. Et donc, il y a un peu cette double découverte. C'est la découverte de « Ah, il va falloir se remettre au travail, et pas qu'un peu. » Et je découvre le monde de l'hôpital, qui est parfois pas évident. Voilà, découvrir un cadre de santé qui vous prend de haut et qui vous dit ça va pas se passer comme ça. Découvrir aussi le contact avec les infirmiers, les infirmières, quand même dans un système qui, déjà il y a 7-8 ans, elle est pas très bien, mais j'ai de la peine pour ceux qui arrivent là, dans un système où tout le monde est quand même dans une certaine souffrance. Et je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, mais il y a encore eu un reportage là dimanche sur le monde de la santé. Et donc, dans un système qui va pas très bien et où chaque nouvel étudiant, parce que quand même, on tournait toutes les 6 semaines. Donc, il faut imaginer que pour tous ceux qui encadrent, un nouvel étudiant tous les 6 semaines, c'est pas évident. Les étudiants infirmiers, les étudiants aides-soignants, enfin voilà, le CHU, c'est vraiment l'usine. Donc voilà. Donc je commence l'externat.
À ce moment-là, quand tu démarres l'externat, t'as pas de notion de choix de dans quel service tu souhaiterais atterrir. C'est la fac de médecine qui te dit lundi vous allez à tel endroit, mardi à tel endroit, ou comment ça se passe?
Non, à Angers, nous c'était en fait il y avait un algorithme qui avait déterminé notre position pour chaque stage où on choisissait. Puis on se retrouvait dans un amphi, il y avait tous les stages possibles et on choisissait. Voilà, donc très honnêtement, c'était plutôt... Alors moi, j'ai eu de la chance parce que ma lettre de famille est en G, donc c'est globalement au milieu de l'alphabet. Donc c'était plutôt... Enfin, en fait, j'ai jamais eu les meilleurs stages, mais j'ai jamais eu les pires stages parce que globalement, j'étais au milieu. Donc j'ai pu faire un petit peu ce que je voulais. Moi, j'ai fait mes premiers pas en neurochirurgie. voilà.
Dis donc.
Et je me souviens d'une interne qui était de garde une nuit sur trois. Qui vivait à ce qu'on appelle l'internat, qui est donc un bâtiment qui existe dans l'hôpital où les internes peuvent dormir, mais c'est des petites chambres. Et elle m'a dit, mon Dieu, mais je ne veux pas de cette vie-là. Elle avait l'air complètement... Elle avait traversé toute la France. Donc, elle était... Même pour rentrer le week-end, c'était pas possible pour elle. Enfin, vraiment, et je me souviens déjà d'une femme qui était quand même en souffrance, clairement, sur le rythme de travail. Et moi, je m'étais dit, bah, alors là, jamais de la vie. Et puis, quand même, il s'était passé 3 ans. À la lumière de mon histoire personnelle, puisque mon papa avait travaillé beaucoup. Et moi, je m'étais dit, bah, en fait, je veux pas de cette vie-là, parce que s'occuper de ses proches, être avec ses proches, c'est aussi très important. Et j'en avais pris conscience un peu plus tôt que les autres, parce que bah, la vie m'avait pas laissé le choix. Et du coup, je m'étais dit, moi, je veux pas de cette vie-là. Donc, je me dirigeais à l'origine, avec cette histoire de femme médecin-pompier là sur le téléfilm, je m'étais dit que je voulais être médecin-pompier et donc plutôt urgentiste. Donc, je m'étais plutôt destinée à ça. Et puis, quelques temps après, je fais un stage aux urgences que je n'aime pas du tout. Voilà. donc là, je me dis, bah, ok. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas. Alors, je sais pas que les gens étaient pas gentils, mais j'aime pas cette ambiance de travail. J'avais l'impression. Alors, en plus, les urgences sont quand même un service qui est en souffrance et depuis un petit peu longtemps. Hein. Et donc, en fait, cette prise en charge ne me correspondait pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est de répondre à une problématique aiguë. Quelqu'un vient avec un problème, on lui règle son problème ou pas, mais si c'est pas grave, il ressort, quoi. En gros, et puis il est adressé a posteriori à un professionnel si on estime que c'était nécessaire. Et ça, ça m'a pas plu. Voilà. Ça m'a pas du tout parlé. Et donc là, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que je veux faire? Je ne voulais pas d'une spécialité à proprement dite d'organes, c'est-à-dire de la néphrologie, de la cardiologie. Je trouvais ça trop restreint.
Donc là, je me disais, c'est intéressant ça. Ok.
Je trouvais ça trop restreint. En fait, j'avais envie de rester assez général. Et donc, quand on a envie de rester assez général, bah, qu'est-ce qu'il y a? La médecine générale. Et moi, j'ai fait mon stage assez tôt en médecine générale. C'était en 3e année de médecine, je crois.
En cabinet, du coup?
En cabinet médical, absolument, avec un médecin généraliste qu'on suit à la fois dans ses visites. Enfin, moi, il faisait des visites à domicile, donc je faisais des visites à domicile. Et puis, à la fois en cabinet. Donc ça, c'était super. Nous, c'était obligatoire dans notre fac. Et c'est dommage que ça ne soit pas partout parce que je crois que c'est intéressant d'aller voir de la médecine de ville aussi et puis découvrir une autre ambiance. Et là, je me dis, OK, banco, médecine générale, pourquoi pas. Il faut savoir que c'est quand même assez dénigré et c'est très dommage dans nos études. C'est-à-dire que nous, c'est un peu une insulte de nous dire « Eh ben, tu vois, si t'es pas bon, tu seras médecin généraliste. » Voilà.
Mais c'est fou, ça. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est médecin généraliste et elle m'a dit ça pas plus tard que la semaine dernière, mais je trouve ça hallucinant.
Mais vraiment, c'est très dommage parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est extrêmement difficile d'être un bon médecin
généraliste.
Mais bien
sûr.
Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Il faut avoir les bases de tout. Il faut savoir quand adresser au bon moment. Il y a une énorme part de relationnel que nous, on n'apprend pas pendant nos études de médecine en plus. Donc, il faut avoir un sens humain qui est aigu. Alors, il faudrait l'avoir pour toutes les spécialités, mais je crois que particulièrement en médecine générale. Et donc, je me dis, bon, ben, médecin généraliste. Alors, moi, j'ai la chance, dans mon entourage familial, hyper bien reçu. Tout le monde me dit, bah oui, pourquoi pas, super. Et moi, je me dis, chouette, la médecine générale. En plus, ça permet une certaine qualité de vie dont j'avais envie parce que, voilà, j'avais envie de pas tout donner. Je sais que c'est mal reçu maintenant de dire ça, hein, pas plus tard que la semaine dernière, là, le reportage montrait que les médecins avaient envie de se reposer un peu. Alors, c'est un peu caricatural quand je le dis ça, mais on sacrifie beaucoup. Moi, j'ai beaucoup sacrifié. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'arriver là où je suis. J'ai sacrifié beaucoup de week-ends, beaucoup de temps avec ma famille et mes amis. Et j'estime que, ben, comme plein de gens, en fait... travailler 40 heures par semaine, c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai qu'on sort d'une époque où les médecins donnaient tout hein, à leur carrière. Aussi parce que c'était beaucoup des hommes et qu'ils avaient beaucoup des femmes à la maison qui géraient tout le reste. Hein. Il faut avoir conscience de ça et que maintenant, bah, la profession, elle s'est beaucoup féminisée. Et donc, et même chez les hommes, en fait, il n'y a pas que les femmes, hein. Même chez les hommes, ils sont, notre génération, je crois, est à la recherche d'un équilibre pro-perso.
Complètement.
Et je crois que toi aussi, hein, tu as fait ce choix-là à un moment de ne pas pouvoir tout gérer et de te dire, bah, en fait, j'ai aussi envie de préserver ma qualité de vie. Bon, bref.
Ouais, donc, oui, non, mais c'est vrai.
Je me dis, bon, bah, médecine générale. Et puis, quand même, ça fait son chemin. Donc, je voulais pas de spécialité médicale. Je fais des stages en chirurgie. Je me dis, oulala, surtout pas chirurgien, parce que je fais pas grand, enfin, je suis pas très douée de mes mains. En tout cas, pas assez manuelle pour aimer ça. Et quand même, je fais un stage en chirurgie, enfin, en chirurgie. Et puis, quand même, bah, de l'autre côté du champ, il y a quoi? Il y a les anesthésistes. Et donc, je me souviens d'un interne qui prend le temps quand même de m'expliquer ce qu'il faisait, de casser une ampoule. Je me souviens très bien. Je me disais, c'est génial. Et lui en parlait avec beaucoup de passion. Je me souviens très bien de lui, comme quoi on a toujours un peu des personnes comme ça qui peuvent nous faire basculer. Et donc là, je me dis, ah bah c'est vrai que c'est chouette. Et en même temps, je me souviens, parce qu'on m'avait dit, mais tu voudrais pas être anesthésiste, parce que mon papa, lui, connaissait bien cette profession de par son travail. Je lui ai dit, non, c'est quand même un peu ennuyeux d'endormir des gens toute la journée, enfin franchement. voilà, donc j'étais bien dans le cliché quand j'avais 18 ans. Et donc, je me dis, pourquoi pas. Et en même temps, nous, quand on... en médecine en tout cas, quand on fait anesthésie, on fait aussi réanimation, c'est-à-dire qu'on a la double casquette, à la fois anesthésiste et à la fois réanimateur. Et donc,
ça, c'est indissociable.
En tout cas, pour notre internat, on passe la double valence. On est anesthésiste et réanimateur.
D'accord.
Plus tard, on peut faire le choix d'exercer que soit en anesthésie, soit en réanimation, soit les deux.
D'accord.
Mais en tout cas, on est formé aux deux. Et gros problème, puisque mon papa est donc décédé en réanimation, et gros blocage pour moi, parce que ça me rappelait quand même à beaucoup de souvenirs. Néanmoins, les réanimateurs qui s'étaient occupés de mon papa avaient été incroyables, avec une humanité vraiment... c'est vraiment un très bon souvenir, entre guillemets, parce que d'une humanité folle. Et, et donc là, je me dis, bah, il faut que j'aille en réanimation. Donc là, je suis en cinquième année de médecine et nous, on avait cette possibilité de ne pas faire nos stages qu'en CHU, donc en centre hospitalier universitaire, mais aussi de faire nos stages en ce qu'on appelle en centre hospitalier périphérique, donc dans des villes autour, en l'occurrence d'Angers. Et j'ai oublié de dire, parce que ça va avoir un peu de sens pour la suite, j'ai oublié de dire, mais moi, j'aimais pas trop l'ambiance CHU. Je trouvais que c'était... un peu malsain, il fallait presque vendre un peu son corps pour avoir un poste, ça se tire un peu dans les pattes, je trouvais ça très gros, et pourtant Angers c'est pas un grand CHU, hein, par rapport à des grandes villes. Là aujourd'hui moi je travaille dans le deuxième plus grand CHU de France, donc force est de constater qu'il peut y avoir encore plus grand, mais déjà je trouvais un petit peu. Et donc je choisis de faire mon stage en réanimation en centre hospitalier périphérique, et là je découvre un autre monde. Déjà je découvre le monde du centre hospitalier périphérique où tout le monde se connaît. Les gens,
il y a une espèce
à taille humaine où les gens se connaissent, se rendent des services, enfin les médecins entre eux. Enfin, il y a vraiment une espèce de coopération. Et donc, j'arrive en réanimation et je dis tout de suite, voilà, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup en réanimation, donc je suis pas très à l'aise. Et là, on me dit, bah, ok, il y a pas de problème, on va faire attention, on va t'expliquer.
T'as bien fait de le dire.
Et je conseille à tous ceux qui, peu importe ce qu'ils ont vécu, mais si... Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver quelqu'un qui puisse entendre ça et l'entendre de manière bienveillante, et ça, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que si vous avez vécu un événement traumatique et qu'il y a quelqu'un, peu importe, un interne, peu importe en fait, parce que après, ben, les gens qui connaissent le service pourront le dire aux bonnes personnes, mais s'il y a quelqu'un avec qui vous avez un feeling, et parfois il suffit de pas grand chose, hein, une toute petite minute, un sourire, et ben, dites-le. Que même si vous rentrez pas dans les détails, vous avez le droit de dire j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, et ça va être peut-être difficile pour moi. On n'est pas obligé de s'épancher si on n'en a pas envie, on peut en parler. Mais voilà, parce que les gens sont un peu plus attentifs, surtout que la réanimation, c'est quand même un milieu extrêmement particulier où les patients sont dans des états parfois gravissimes, ils sont équipés de tout un tas de machines, et donc ça peut être très impressionnant. Et c'est assez éloigné des patients classiques dans un service d'hospitalisation. Et donc là, je suis accueillie et je découvre la spécialité de réanimation et je me dis, ok, j'aime bien. Et peut-être que moi, j'ai un rôle à jouer. Ayant moi-même eu besoin un jour de ça, je me dis, ok, c'est super. Donc, réanimation, pourquoi pas. Et puis, j'ai fait plusieurs stages en chirurgie après, où en fait, j'allais clairement du côté des anesthésistes parce que ça me branchait beaucoup plus.
Ah ouais, tu te sentais attirée quand même. Ouais, ouais.
Je me sentais attirée et je fais un stage d'anesthésie au tout début de ma sixième année de médecine. Et dans le même centre hospitalier périphérique de là où j'avais fait mon stage en réanimation, donc en plus je commençais à être un petit peu à la maison. Moi j'ai pas un peu de repère hein, quand même, j'aime bien connaître les gens, avoir du repère dans un environnement qui était familial. Sûr. Et en plus les gens commençaient à me connaître, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en médecine. Et du coup j'étais un peu, tout le monde, dès qu'il y avait un truc intéressant, ils avaient le temps, ils n'étaient pas fatigués de répéter 1000 fois la même chose, donc c'était super.
Exactement.
Et là, cœur absolu. Je me dis ok, c'est ça. Moi, je veux être anesthésiste. Ce sera ça et rien d'autre.
Super.
Voilà. Problème. Anesthésie et réanimation dans l'intervalle est devenue extrêmement prisée au concours de l'internat. Et en gros, on était 8000 à passer le concours. Et le dernier poste disponible d'anesthésie et réanimation l'année d'avant où j'ai passé le concours, parce que ça nous donnait un repère, c'était 1800, je crois. Je dirais une bêtise. 2300 ou 2500, le dernier poste. Donc en gros, je me dis, ok, donc il faut que je sois 2500 sur 8000 au minimum pour faire ce dont j'ai envie.
Et puis ça, c'est vraiment l'offre et la demande. Du coup, ça veut dire que d'année en année, les envies des externes et des futurs internes évoluent et fait que du coup, des spécialités sont plus ou moins demandées. C'est pas juste une question de numerus clausus, c'est aussi de la rareté du poste en fonction du degré d'attirance du poste, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et moi, en plus, pour compliquer un peu le tout, je suis une grande fan de montagne. Et donc, je m'étais fixée, je rêvais d'aller à la montagne. Et donc, je m'étais dit, ok, moi, j'ai envie de Lyon ou Grenoble. Et alors là, deux villes qui sont extrêmement prisées, à la fois parce qu'il y a une belle qualité de vie et aussi parce que la formation est extrêmement poussée. Hein. On se souvient de Schumacher qui avait été hospitalisé en réanimation à Grenoble. C'est un très gros centre pour l'anesthésie réanimation. Et par exemple, le dernier prix l'année d'avant où j'ai passé le concours, moi, à Grenoble, il était 600e. Voilà. Donc, il y avait 6 postes et le dernier prix, 600e. Donc là, l'objectif était monstrueux. Ouais. Et c'est difficile en plus quand on arrive en 6e année de médecine, c'est-à-dire qu'on va passer un concours avec tous les gens de toutes les facs. Et en fait, c'est très difficile. Nous, dans notre fac, en plus, à chaque partielle, ils ne nous classaient pas. Je ne savais même pas combien j'étais dans ma promo, si j'étais bonne, pas bonne. Alors, je savais que j'étais globalement au milieu, quoi. Mais je ne savais pas du tout si j'étais parmi les meilleurs ou parmi les moins bons, parce que notre fac, et je pense c'est très bien, avait fait le choix de ne plus nous mettre en compétition tout au long de notre cursus pour essayer de faire un peu redescendre la pression, parce qu'il faut pas oublier que tous ces gens là qu'on met en compétition, et ben à l'internat ils sont en compétition, puis 4 mois après il faut que tout le monde travaille ensemble quand même.
Et ça c'est
un vrai problème hein. Je crois que c'est un vrai problème parce que c'est malsain en fait, tout simplement.
Complètement.
Et donc, j'attaque cette 6e année de médecine en me disant, ok, je vais être anesthésiste réanimateur à Lyon ou à Grenoble. Donc, en gros, il fallait que je sois dans les 1000 premiers. Et pour faire redescendre quand même cette pression, je m'étais dit, ce serait bien d'être dans les 2000 premiers. J'aurais peut-être pas Lyon ou Grenoble, mais j'aurais peut-être une ville à côté ou même une ville dans l'Ouest pour rester près de ma famille. Et puis, ce sera très bien. De toute façon, moi, je m'étais dit, je privilégierais la spécialité. Parce qu'il faut savoir que du coup, quand on passe le concours ou qu'on le prépare, il y a deux options. Soit on a le choix du roi, c'est-à-dire qu'on peut choisir notre ville et notre spécialité. Donc, ça, c'est super. Soit après, on peut faire un deuxième choix. Soit on choisit la ville, parce qu'on a très envie de rester dans une ville au détriment de la spécialité si notre classement ne nous permet pas d'avoir la spécialité qu'on souhaite. Mmh. Soit on choisit la spécialité au détriment de la ville. Il y en a qui font aussi ce choix-là.
Et on est prêt à se déplacer partout en France.
Et on est prêt à se déplacer partout en France. Soit, et là c'est le pire des cas pour ceux pour qui c'était le rêve, ils peuvent faire aucun des deux. Et dans ce cas-là, il faut redoubler ou faire un autre choix. Et c'est difficile, hein, parce que quand même, on est sur des gens qui ont fait 6 ans de médecine, voire une année de plus s'ils ont doublé, donc 7 ans. En gros, on a 24 ou 25 ans et on peut se retrouver sans faire ce qu'on aimait. Et c'est terrible. Vraiment, enfin, ça n'a pas été mon cas, mais ça peut être vraiment extrêmement violent. Et les études de médecine en ça peuvent être extrêmement violentes parce que on peut avoir rêvé d'être cardiologue et pas y arriver. Et ça, c'est difficile en fait parce que en plus il manque de médecins partout. Donc le débat reste ouvert, mais voilà, mais les études de médecine sont encore très élitistes et voilà, le système est fait comme ça. Et
ouais, donc on est toujours ramené en fait à son classement.
Absolument.
Du début à la fin, en fait, on est toujours ramené, dans un système de classement.
On est ramené à un chiffre sur un PDF, c'est-à-dire que quand le résultat d'internat tombe, c'est un PDF qui s'affiche avec tous les noms et les numéros. Moi, j'en ai fait des cauchemars monstrueux parce qu'en fait, c'était une pression de dingue, quoi. Et moi, je m'étais dit, bah, en fait, si je ne l'ai pas, je redoublerai parce que je ne veux faire rien. Enfin, une fois que j'avais... Et en plus, alors parfois, pour certaines spécialités, on peut faire médecine générale puis se surspécialiser. Et par exemple, dans le cas typique de l'anesthésie et de la réanimation, c'est possible de faire une spécialité médicale, par exemple de la pneumo, de la cardio, puis après d'arriver en réanimation. Mais pour l'anesthésie, il n'y a pas aucun moyen de re-rentrer. C'est-à-dire que l'anesthésie est un milieu extrêmement fermé parce que en fait, personne d'autre ne fait de l'anesthésie que les anesthésistes. En fait, c'est une spécialité qui est extrêmement particulière, on y reviendra, mais en tout cas, en médecine, nous, on n'apprend pas l'anesthésie pour le concours de l'internat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire d'anesthésie. Personne d'autre ne fait de l'anesthésie de près ou de loin. Donc, en fait, c'est extrêmement fermé et extrêmement réglementé. Et je pense que si on n'a pas le diplôme d'anesthésiste, c'est impossible d'exercer l'anesthésie. Voilà, c'est tout simple. C'est ça, bête comme chou, c'est pas possible. Et donc, moi, je me suis dit, bon, bah, si j'arrive pas à l'avoir, tant pis, je redoublerai. Mais c'est déjà hyper dur. Moi, j'ai passé le concours, j'avais 25 ans. Vous voyez, se retaper encore une année à 25 ou 26 ans, c'est dur, quoi.
Et puis, sans avoir la certitude que l'année suivante, ça soit à nouveau bon. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'inconnus dans le tableau, quoi.
C'est ça. J'attaque cette sixième année de médecine avec une pression immense. Donc, l'objectif, c'était 2000. Et là, à nouveau, je ressors le plan de guerre. Comme pour la première année de médecine, je me dis, OK, donc là...
Je m'enferme.
Il s'est passé 2 ans et demi. En 2 ans et demi, on a vu toutes les matières. Là, l'idée de la sixième année de médecine, c'est de tout réviser. Mais il faut savoir qu'il y a, je devais avoir 25 bouquins. Enfin, vraiment, la quantité est monstrueuse. Et je me souviens d'avoir pleuré en disant, mais je n'arriverai jamais à apprendre tout ça. Jamais. C'est impossible, c'est surhumain. Alors, la finalité de l'histoire, c'est que c'est un concours. Donc, l'idée, c'est d'en savoir plus que les autres. Mais voilà, c'était monstrueux. Et donc là, je ressors le plan de guerre. À nouveau, ceux qui m'écoutent et qui préparent un concours, écoutez-vous. Si vous travaillez bien le matin, travaillez bien le matin. Si vous travaillez bien le soir, travaillez le soir. Pour donner un exemple, moi, je me levais à 5h30, mais par contre, à 21h30 max, j'étais couchée, voire 22h. Et en gros, après 20h30, moi, j'arrivais plus à travailler. Et j'avais une copine qui, elle, faisait exactement l'inverse de moi. Et parfois, on s'envoyait des textos à 5h du mat. Elle allait se coucher, elle avait fini sa journée de révision. Et elle se levait à 14h. Et moi, je me levais. Donc, vraiment, il faut s'écouter.
Oui, il faut trouver sa méthodologie, il faut se respecter, il faut s'écouter.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc là, on se remet dans le bain. Toujours Maureen, pas loin. Ma binôme de toujours, et puis d'autres copines, parce que quand même, on n'est pas parlé, mais je me suis fait d'autres amis dans l'intervalle, et donc on se met dans cette préparation, mais quand même, il y a une forme de compétition, et ça rebat les cartes, c'est-à-dire que même de mon groupe de copines, ça a été difficile, parce que là, les cartes sont rebattues, tout le monde est dans son propre stress, tout le monde est dans ses angoisses, dans son envie de réussir, j'ai découvert un truc, je le dis aux autres ou je le garde? Enfin, vraiment, on arrive à des schémas de pensée. Moi, quand j'y repense, je me dis, mais c'est complètement dingue de réfléchir comme ça. Et donc, on commence comme ça. Une année donc difficile avec beaucoup de travail, rétro-planning, machin. Nous, notre fac, pas de prépa privée, mais moi, je me pose même la question parce que la plupart des autres étudiants dans les autres facs ont des préparations privées. Et là, on devient dingue. On se dit, mais si c'est payant, peut-être que c'est mieux. Alors, au final, je peux vous dire que non, mais... mais voilà, en plus, il y a un business autour de ça. Et donc, nous, dans notre fac, on avait quand même tous les jeudis des médecins plus vieux, ce qu'on appelle des calls, où en gros, on avait des dossiers cliniques et on était classés. À nouveau, classés sur un anonymat. Donc, personne ne pouvait savoir comment l'autre était classé, mais classé. Et donc, on commence cette année comme ça. Et cette année, va être extrêmement marquante puisque c'est l'année du Covid. Moi, j'ai passé le concours au mois de juin 2020. Et donc, j'ai commencé l'année en 2019. Et donc, arrive ce Covid qu'on voit pas trop venir. Alors, en plus, moi, je regardais pas beaucoup les infos en sixième année de médecine parce que quand je travaillais pas, j'avais pas spécialement envie de regarder les infos.
Ouais.
Et donc, on arrive au mois de janvier ou février. Et là, quand même, on le voit arriver, ce Covid. Et c'est extrêmement particulier parce que je me souviens que tout le monde l'avait beaucoup sous-estimé, en fait. Au sein même du corps médical, puisque moi, j'étais en stage, tout le monde dit « Oh, ça va, c'est une grippe, hein, on va pas en faire toute une histoire. » Donc, c'est un peu fou maintenant, parce que quand on sait comment ça s'est passé.
Et, ouais, et puis, il y avait l'exemple un peu de la grippe A quelques années avant. Enfin, moi, j'entendais beaucoup ce genre de choses en disant « Mais regardez, Roselyne Bachelot, elle avait acheté je ne sais combien de millions de vaccins, on n'en a pas utilisé un quart. » Enfin, bon, t'avais un peu l'impression que l'histoire se répétait, quoi.
C'est ça. Et donc, sauf qu'un beau jour, eh ben, on nous dit « Bon, ben voilà, les avions ne décollent plus et on va être confinés. » Et alors là, c'est un peu fou parce que donc nous, je me souviens très bien, annonce du confinement, je crois, le vendredi, et il me dit « On ferme les facultés. » Et nous, on devait passer notre concours blanc national. Parce que du coup, donc pour la petite anecdote, nous, on passait notre concours sur tablette. C'est-à-dire que nos dossiers, quand on arrivait à la fac pour passer le concours ou même pour passer les partiels, on nous filait un iPad. Et donc, épreuves s'affichaient. Et donc, il fallait, on remplissait ce qu'on appelle des dossiers cliniques. Donc, on avait l'intitulé du dossier, une première question qui s'affichait. On validait nos réponses et ça affichait seulement la question d'après. Et donc, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, c'est ce qu'ils appellent des dossiers progressifs. Sauf qu'une fois que si vous avez mal répondu à la question d'avant, à la question d'après, on vous dit « Vous avez donc considéré que c'était ça. » Donc, en plus, vous savez en direct si vous vous êtes trompé à la question d'avant.
Ah, non.
Donc, on est sur une petite forme de torture psychologique quand même. Donc, quand vous avez bien répondu, vous êtes là « Ok, c'est bon, super. » Quand vous avez mal répondu, vous êtes là « Ok. » Et bien, il faut se reprendre. Et donc, nous, on avait notre concours blanc national qui était prévu le lundi, mardi, mercredi du début de confinement. Et donc là, on nous dit, bon, bah, les facs sont fermées. Et c'était vraiment le concours qu'on devait faire. Donc, c'était sur 3 jours. Et c'était un peu la répétition générale avant le concours du mois de juin.
Avant le vrai.
Et donc, on se dit, bon, bah, on va le passer à la maison. Super. Donc là, on se dit, bon, bah, l'équité n'y est plus. Et c'était vraiment l'angoisse parce que nous, on se dit, bon, bah, ça va pas être, puis on attendait tous un peu ce concours pour savoir où on en était dans nos révisions, qu'est-ce qu'on valait. Parce qu'en fait, jusque là, moi, je travaillais un peu à vue sans savoir ce que je valais, donc c'était un peu difficile. Donc finalement, je passe la première journée de concours avec Maureen, toujours, chacune de notre côté sur un bureau à faire notre concours blanc en se disant, bah, on triche pas, on joue le jeu. Et le lundi soir, Emmanuel Macron nous dit, bon, ben voilà, maintenant, il faut que tout le monde soit confiné à partir de demain, que personne ne bouge. Et donc là, grosse dualité, puisque on était toujours en stage, nous, et en même temps, on nous confinait. Et donc, moi, je vivais loin de chez mes parents, donc à plus de 300 km. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, notre président de l'université nous dit, bon, ben écoutez, voilà. Il y a 2 choses. Angers n'était pas très touchée en fait par le Covid à cette époque-là. Il y a vraiment eu des villes qui ont été moins touchées que d'autres. Et donc, nous, on nous dit, mon chef de service me dit, écoute Léa, moi j'étais en radiologie en plus à l'époque, donc un petit peu moins confrontée. Ils nous disent, bon ben bah, voilà, les 6e année de médecine, vous vous confinez parce que vous préparez le concours. C'est les plus jeunes qui vont aller au front en début, et puis si on s'en sort pas, on mobilisera un petit peu plus les 6e année de médecine. C'était le choix de la fac.
D'accord.
Voilà, de prioriser ceux qui préparent le concours, parce que c'était une année avec avec beaucoup d'enjeux. Malheureusement, il y a eu beaucoup de disparités entre les villes sur les choix. Donc, déjà même, il y a des inégalités, en fait, hein. Mais c'est un peu le jeu du concours. Et donc, moi, je rentre en catastrophe chez mes parents avec tous mes bouquins dans la voiture. Je traverse la France après l'heure limite. Donc, je me retrouve toute seule sur l'autoroute à me dire, à tout moment, il y a un hélicoptère qui va me dire, madame, qu'est-ce que vous faites là?
Rentrez chez vous.
Ah, c'était vraiment surréaliste. Et donc, moi, je rentre chez moi, donc chez mes parents, et là, entame bah, quasiment 3 mois de préparation de concours, confinée chez moi, avec des gens qui m'applaudissent le soir. Moi, je me souviens, c'était l'heure de ma fin de révision. Il y avait des gens qui applaudissaient au final. Je me disais, c'est fou. Et avec quand même une petite frustration parce que Eh ben, on mettait en avant donc les anesthésistes réanimateurs hein, qui ont beaucoup géré cette crise Covid, en tout cas chez les patients qui étaient très graves. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est encore plus ça que je veux faire. J'adorerais y participer. Mais c'était lors de la préparation du concours. Et donc, je savais que si je voulais y arriver plus tard, j'avais pas le choix.
Eh oui, un temps pour tout.
Un temps pour tout, voilà. Donc là, 3 mois de révision extrêmement intense. Ils nous font une petite blague quand même, puisque le concours a été reculé de 3 semaines, lié aux contraintes du Covid, parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir réunir. Alors, on passait pas, ils nous mettaient pas les 8000 ensemble, donc on passait notre concours dans chaque fac, mais quand même, c'est des amphis de 400 ou 500 personnes. Alors, on n'était pas 400-500 parce qu'il fallait une place entre chaque étudiant, mais en fait, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir mettre 300 personnes dans un amphithéâtre. Alors qu'on disait aux gens, quand vous faites vos courses, lavez-vous les mains, mettez un masque et pas plus de 5 personnes dans le supermarché, quoi.
Il faut se remettre un peu... Logistiquement, il fallait que ça soit cohérent. C'est vrai qu'à cette époque-là, on disait, on se confine, dans un mois, c'est fini. Enfin, il y avait tellement d'inconnus au tableau, c'était incroyable.
C'était incroyable. Et donc, eux, ils nous disent un beau matin, et donc, il faut dire quand même, ça a été extrêmement mal géré, on apprend sur Twitter que le concours est repoussé de 3 semaines. Voilà. Moi, ce jour-là, je vrille complètement. En fait, alors pour une raison, c'est que moi, j'avais prévu de fêter mes 25 ans et de réunir tous mes proches après le concours. Et en fait, le concours étant repoussé de 3 semaines, et ben, ça tombe juste après la fête qui est prévue. Et là, je dis, mais en fait, je peux pas faire une fête 36 heures avant de passer le concours le plus important de toute ma vie. En plus, c'est quand même de la logistique. Voilà. Et donc, et en plus de ça, quand ça fait un an qu'on travaille tous les jours. Enfin, moi, je me relevais à nouveau à 5h30 tous les dimanches. Enfin, ça ne s'arrêtait jamais, les révisions. Et ben, en fait, dire c'est 3 semaines de plus, c'est horrible. Enfin, c'est comme si vous couriez un marathon, vous arrivez à 42, on vous dit non, mais en fait, c'est 10 de plus. Allez, courage, ça va bien se passer.
Quelle horreur.
Voilà. Donc là, c'est vraiment un moment qui est difficile pour moi. Je crois que j'ai dit, j'arrête pétine. En fait, là, c'est bon. Je suis arrivée au bout de mes limites. J'arrête. Failli mettre tous les livres à brûler. Et puis, à nouveau, ma maman qui a eu beaucoup de courage. Je salue d'ailleurs tous ceux qui accompagnent les gens qui passent les concours, parce que je crois que pour eux aussi, c'est un moment difficile, hein, parce qu'ils sont impuissants. Il faut en même temps à la fois gérer des gens qui sont dans un état de stress pas possible, qui sont parfois pas très agréables, qui sont omnubilés que par ça. C'est-à-dire que moi, je parlais que de ça. Hein. Franchement, il n'y avait plus aucun autre sujet de conversation qui existait.
Et donc,
ma maman me dit, quand même, ma chérie, tu vas te remettre au travail, hein, parce que si près du but, ce serait dommage. Et en plus, quand même, le concours blanc s'était extrêmement bien passé. J'étais arrivée autour des 700 sur 8000 au concours blanc.
Ouais. Donc c'était hyper encourageant.
Les feux étaient vraiment au vert. Et pour remettre un petit peu de baume au cœur, ma maman me disait toujours, écoute, ton papa est derrière toi, il va te donner des super sujets pour le concours et ça va bien se passer. Donc elle a toujours beaucoup cru en moi. Et donc bon an, mal an, on arrive au concours. Là, je crois que c'est les 3 jours les plus stressants de ma vie entière, encore plus que le concours de première année de médecine, même si on oublie un peu, je pense que c'est comme les accouchements, on se souvient plus bien. J'ai pas accouché, mais je pense que voilà. Et donc là, les 3 jours les plus difficiles, parce que là, l'enjeu est énorme, vraiment
énorme.
Et donc, première journée de concours difficile, je sors en disant à mes proches... je sais pas, je crois que j'aurai pas la ville ou la spécialité. Voilà. Donc, parce que toujours dans cette histoire de ce que j'ai raconté tout à l'heure, là, de choix, je dis bon, je sais pas. Deuxième jour, je sors en disant vraiment, là, c'était horrible. En fait, le concours était vraiment très difficile. Et alors, je crois que tous ceux qui ont passé le concours ont dit que leur concours était très difficile. C'est juste qu'ils arrivent toujours à faire de la nouveauté. Donc, en fait, c'est très déstabilisant. On s'est beaucoup préparé en regardant les annales des années d'avant. Donc, on a l'impression de s'attendre, de savoir à quoi s'attendre. Mais en fait, on ne sait pas. En fait, finalement, ce sur quoi on arrive ne sait pas. Donc, surtout ceux qui m'entendent et qui vont passer le concours, eh ben, si c'est déstabilisant, c'est normal. Et, et troisième jour... j'y vais la boule au ventre et la dernière épreuve se passe très mal. Donc, c'est ce que je disais, hein, on valide nos questions et on ne peut plus revenir en arrière. Et il y a 3 ou 4 questions que j'enchaîne sur un dossier où je n'ai pas les bonnes réponses. Et là, vraiment, C'est vraiment hyper difficile parce que déjà il y a beaucoup de pression. On se dit qu'à chaque question qui est fausse, on perd des places. Vraiment, il faut se remettre dans l'idée, c'est que on se dit bah là j'ai mal répondu et les autres ont bien répondu, donc là j'ai perdu 100 places, 200 places, 300 places.
Ah ouais,
places.
Puis dans ta tête tu vois ton nom qui descend, dans... c'est affreux.
C'est vraiment voilà. Enfin, je sais que la plupart des gens n'imaginent pas ça derrière les études de médecine. Et c'est juste pour rappeler que voilà, c'est vraiment extrêmement difficile. Et alors, il y en a peut-être qui diront que moi je l'ai mal vécu, mais je pense qu'on pourrait en interroger la plupart. Il y en a quand même pas beaucoup qui disent ah non c'était facile, pas très stressant. Enfin, franchement,
j'en connais un seul. Et il était au lycée avec moi et c'était couru d'avance que pour lui ça serait différent des autres. Mais franchement, j'en connais un seul.
Ouais. Et vraiment,
pour la plupart des personnes, c'est quand même enfin, c'est un challenge, c'est un sacrifice, un sacerdoce, je sais pas quel mot on peut employer, mais non, je pense que ça parlera beaucoup ce que tu es en train d'expliquer.
Donc, troisième jour de concours, et là, épreuve extrêmement difficile, et j'ai fini le concours en fermant l'iPad, donc, et là, je me suis effondrée en pleurs, vraiment, dans l'amphithéâtre, c'est-à-dire que je n'arrivais même pas à retenir mes larmes. De déception, de fatigue aussi, hein, parce que quand même on arrive au bout d'un an de travail monstrueux.
Et donc, la pression
qui retombe, je sors de l'amphithéâtre, je n'arrive même pas à me réjouir. C'est-à-dire que normalement, à la fin du concours, tout le monde se rassemble et puis c'est la fête, quoi. Et on attend quand même, parce qu'il faut qu'ils valident que tout est bien OK. Et normalement, on doit rester sur place. Et il faut qu'au plan national, ils valident que toutes les copies sont bonnes, etc. Pour que ce soit la fin officielle. Sinon, on peut être reconvoqué pour une autre épreuve. C'est quand même la petite pression psychologique existe toujours. Et moi, je n'arrive même pas à rester. C'est-à-dire que je pars en courant, en pleurant, en appelant ma maman, en disant « De toute façon, tu vois, papa, il ne m'a pas du tout aidée. » Là, c'était encore plus horrible. Donc là, elle est complètement démunie. Je finis même par lui raccrocher au nez. Et donc, Maureen, toujours, me retrouve au pied de ma voiture en pleurant vraiment toutes les larmes de mon corps. Et je lui dis « Mais c'était horrible. » Et elle me dit « Mais tu sais, Léa, il y a la moitié des gens qui sont en train de pleurer devant l'amphithéâtre. Si tu n'es pas restée pour voir qu'en fait, pour tous les autres, c'était difficile. »
C'était horrible pour tout le monde.
En fait, c'était horrible pour tout le monde. Et donc, bon, j'arrive quand même à m'en remettre. On fait ça. Et là, c'est chouette parce que du coup, comme on passe le concours sur iPad, les résultats tombent une semaine après. Donc là, c'est hyper court pour le coup. Mmh. Et ça, c'est vraiment chouette parce que sinon, on n'arrive pas à décrocher, en fait. Moi, je commence à me dire, je vais redoubler. Je vais peut-être demander un rendez-vous au doyen en amont pour discuter de mon redoublement. Je deviens complètement folle pendant cette semaine. Vraiment, complètement folle. Enfin, vraiment, j'ai... et a posteriori, quand les gens vont entendre ce que je vais dire après, ils vont se dire, elle était vraiment complètement folle.
et donc, on peut comprendre que tu aies aussi envie de te préparer. Enfin, ça, c'est humain. Tu te prépares au pire, t'anticipes, voilà. Pour éponger la déception, pour visualiser la suite, c'est bien humain.
Je préparais aussi mes proches, parce qu'ils m'avaient beaucoup soutenue, j'avais envie de leur rendre ce qu'ils m'avaient donné, et j'avais pas envie de les décevoir aussi. Aussi, je crois que je préparais mes proches en disant « Attention, ça s'est pas bien passé, peut-être que ce sera pas à la hauteur de mes espérances, etc. » Et puis, j'avais peur aussi que les gens me questionnent rapidement en me disant « Ben, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais en fait, j'en sais rien. Et donc, finalement, arrive ce jour de résultat. Pareil, je crois que les résultats étaient pour 14h, quelque chose comme ça. Et là, ce PDF sort sur Facebook. Ah, vous voyez, on est sur un niveau de communication quand même.
Mais donc, c'est incroyable.
Oui, le PDF est d'abord sorti sur la page ça s'appelle le CNG. C'est sorti sur la page Facebook du CNG. Ah non, mais vraiment, on est sur un niveau de communication qui est qui est fou. Et donc, j'ouvre ce PDF avec une fébrilité maximum, et c'est un PDF avec 50 pages, quoi. Donc, vous faites Ctrl Found et vous cherchez votre nom. Et donc là, je tape mon nom de famille. Et là, je suis 282 sur un peu plus de 8000. Et là, vraiment, j'ai une sensation de chute, comme si je tombais du cinquième étage. Vraiment, en plus, je venais de vivre une semaine où je me suis dit, je vais redoubler, c'est sûr, je vais redoubler.
Mais c'est ça, t'avais envisagé le pire et tu dois même pas y croire quand tu vois ce chiffre-là.
Non, vraiment, ça a été... alors évidemment, avec ma maman, on se tombe dans les bras, je me dis, tu te rends compte, c'est fou, je vais pouvoir aller à Grenoble ou à Lyon et je vais pouvoir faire la spécialité de mon chat. Et vraiment, une journée complètement folle, et il m'a fallu quand même plusieurs jours pour pour réaliser. Et après, ils ont fait un correctif parce qu'ils avaient oublié un étudiant. Voilà. Okay. Et donc, ils ont fait un correctif le lendemain en disant nouveau classement. Et là, je me dis, oulala, ça se trouve, ils se sont trompés. Bon, le chiffre n'avait pas
282.
Changé.
282.
C'est bon. Le chiffre n'avait pas changé. Ils ont sorti les notes 2 jours après. Et j'ai même été jusqu'à regarder les notes parce que je n'y croyais pas. Et il m'a fallu quand même plusieurs jours pour réaliser, un, que c'était fini, deux, que j'allais pouvoir faire ce que je voulais dans
et
la
où
vie.
Et où tu voulais.
Et où je voulais. Et surtout, la récompense de tout ce travail monstrueux, en fait. Et là, vraiment, commence un bel été. Un été à se reposer, un été à se ressourcer, un été à profiter de ses proches. Post-Covid, en plus. Donc, on pouvait... Là, les restrictions s'étaient levées. Donc, voilà.
Oh, incroyable. Mais en fait, pour enfin, moi, c'est toujours un truc auquel j'ai réfléchi. Mais en gros, c'est 7 années de sacrifice. À un moment où tu as 25-26 ans, donc c'est-à-dire que t'as, si on considère que les premières années de la vie comptent pas, tu as un tiers de ta vie à ce jour-là qui est consacré à cet objectif-là. Enfin, je trouve le truc
c'est vrai.
C'est stratosphérique, quoi.
C'est vrai, et en plus, du coup, donc moi j'ai eu 25 ans juste avant le concours, et moi je voyais mes amis qui font d'autres choses dans la vie que médecine, s'installer en couple,
voire
avoir des projets de mariage ou d'achat d'appartement. Et ça, c'est difficile parce qu'on est à un moment où les autres construisent une vie, leur vie en fait, hein, des trucs de 24-25 ans. Et moi, j'étais en jogging arrivée chez moi. Donc, c'est vrai que c'est... Autant le premier concours, on pourrait se dire, bon, 17-18 ans, après tout, il y en a plein qui passent des concours à cet âge-là.
Ouais, on est tous dans le bain pour une raison.
On est tous dans le bain. Mais là, celui-là, il est quand même particulièrement difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se poser 20 fois la question de redoubler, parce que ça veut dire que c'est à nouveau. Et puis, en fait, derrière l'internat, hein, parce que là, on passe le concours, mais il en reste encore à faire. Hein. C'est-à-dire qu'après, l'internat, c'est entre 3 et 6 ans. Donc, en plus, plus on recule... Plus, on se retrouve à commencer l'internat à 26 ou 27 ans, et après, on est encore interne 6 ans. Donc, on arrive vite à 32 ou 33 ans. Donc, effectivement, ça fait, moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé, et j'ai 28 ans. Donc, bientôt, ce sera un tiers de ma vie.
Alors, du coup, j'ai une question un peu naïve, mais du coup, il y a probablement des personnes qui vont finir par choisir des spécialités qui, au fond, ne leur conviennent pas. C'est le drame, du coup, de cette sélection-là. C'est
Absolument.
Qu'il y a des futurs médecins qui finiront par exercer dans une branche pour laquelle ils n'avaient pas une passion
Absolument.
À la base, finalement.
Absolument. Et ça, je crois que c'est cruel. Et c'est cruel, surtout quand on arrive à 7 ou 8, à bac plus 6, en fait. Hein. C'est cruel. Après, il y en a qui vont dire, dans le droit, ça se fait aussi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est cruel. Et c'est d'autant plus cruel qu'avec l'actualité, on voit bien que... On manque de spécialistes et on manque de tout. Donc en plus, c'est contingenté et je crois que pour le coup ça ne changera pas. Donc effectivement c'est cruel et ce n'est qu'au mérite de ces QCM, hein, de ces questionnaires à choix multiples qu'on a rempli. Donc moi j'ai eu cette chance et avec mon travail de pas avoir de choix cornéliens à faire, mais effectivement il y en a qui sont confrontés.
Du coup, quand l'internat démarre, cet internat dure plus ou moins longtemps en fonction de la spécialité qu'on obtient, c'est ça ?
Absolument. Du coup, donc, c'est 3 ans pour la médecine générale, peut-être bientôt 4 ans. Il y a une réforme qui est en cours, mais peut-être que ça va être allongé. Ensuite, les spécialités qu'on dit médicales, la pneumologie, la cardiologie, etc., c'est plutôt 4 ans. Et après, il y a des spécialités qui sont passées en 5 ans, dont la mienne. Nous, c'est 5 ans, parce qu'on estime que voilà, il faut faire 5 ans. Et après, il y a les spécialités chirurgicales, l'orthopédie, la neurochirurgie, tout un tas de spécialités chirurgicales qui, elles, sont à 6 ans. Donc, il faut savoir qu'au moment où on choisit l'internat, on rempile pour tout un nombre d'années, ou pendant ces 6 ans, tous les 6 mois, on change de stage. Hein, voilà. Parfois... dans différents, on n'est pas forcément que sur la ville où on a choisi l'affectation, c'est toute la région.
Oui, d'accord.
Voilà, par exemple, moi, ma première année d'internat, Je l'ai passé juste à côté de Genève, hein, pour ne pas le citer. Voilà, j'ai passé un an là-bas avant d'arriver à Lyon. Hein, donc
la région, elle est.
Elle est très grande. Elle est très grande parce que ouais. J'étais donc à 2 heures de Lyon. Hein, donc voilà.
C'est ça.
Donc ça et ça aussi les gens le savent pas, c'est que être interne, tous les 6 mois on change de stage. Donc c'est à nouveau des nouveaux patrons, des nouvelles équipes. Ça demande beaucoup de ressources, hein, de s'adapter toujours à un nouvel environnement et parfois pas dans la même ville. Et donc ça, c'est pas si évident que ça aussi après pour construire sa vie personnelle, parce que on n'a pas toujours un conjoint qui fait la même chose, ou s'il fait la même chose, bah, quand vous vous retrouvez dans deux villes différentes, c'est quand même pas si évident que ça. Et donc ça, les gens ne le savent pas, mais c'est vrai que l'interne est... se déplace tous les 6 mois et change de stage. Alors, ça nous permet quand même de découvrir les différentes facettes de nos spécialités et ce qu'on a à apprendre, donc c'est nécessaire. Hein. Mais voilà, c'est encore des sacrifices. Et à nouveau, on est soumis à notre classement, puisqu'en fait, quand on choisit notre spécialité, on choisit avec notre classement. Et après, dans notre spécialité, on garde notre classement de l'internat pendant tout. Notre classement au concours de l'internat définit la manière dont on choisit nos stages pendant, tout au long de notre internat.
Oh, d'accord. Alors ça, j'ignorais.
Donc, par exemple, moi, je suis deuxième de ma promo d'anesthésie et réanimation dans la ville où je suis. Et donc, je choisis en deuxième position. Mais ceux qui sont derrière, eh ben, ils choisissent après moi, tout le temps. Ça, c'est pas très juste en vrai. Enfin, moi, c'est très bien, c'est très chouette pour moi parce que j'ai plus de choix. Mais quand on y réfléchit, ça pose question quand même, en fait, de toujours remettre les étudiants en médecine à un chiffre, à un classement. Voilà. Donc, donc au sein même de notre internat, après, on choisit en fonction de notre classement.
Et alors, ce statut d'interne, c'est du coup la première fois depuis le début des études où tu te consacres à une spécialité et où tu ne fais plus qu'étudier cette spécialité-là.
Absolument.
Et comment se déroulent les apprentissages ? Parce que tu es toujours apprenant, mais à la fois l'interne obtient de plus en plus de responsabilités, il a une certaine autonomie dans ce qu'il fait à l'hôpital. Comment ça se passe ?
Alors, du coup, c'est vrai que... La marche est immense, c'est-à-dire qu'on passe de l'externat, où en gros on est vraiment étudiant en médecine, on se promène dans les couloirs de l'hôpital, on fait des observations, etc., mais on est toujours extrêmement supervisé, on ne prend aucune décision, à du jour au lendemain, vous mettez un pied dans l'hôpital et vous dites « bonjour, je suis l'interne », et là, tout le monde vous passe des coups de téléphone, il faut que vous preniez des décisions, il faut que vous sachiez faire. Donc, déjà, la marche est très importante, et il faut savoir que oui, on a passé 6 ans à apprendre plein de choses, mais en fait, on apprend de la théorie quand même, hein, et on fait certes de la pratique, mais c'est-à-dire qu'on apprend pendant l'externat, on n'apprend pas à prescrire. Par exemple, on n'apprend aucune posologie, parce qu'en fait, ça ferait beaucoup trop et qu'il faut quand même être bon sur du diagnostic avant d'apprendre la posologie de tel ou tel médicament. Mais du jour au lendemain, vous arrivez, vous mettez votre pied à l'hôpital le 1er novembre. Voilà. Sachez que tous les 1er novembre, c'est la même histoire. pas le 1er parce que c'est férié, donc le 2 novembre.
Le 2.
Le 2 novembre, tout le monde arrive avec sa petite blouse, son petit stéthoscope autour du cou. On est mort de peur. Enfin, quand même, il y a quand même beaucoup d'anxiété. Et là, on devient interne. Il faut savoir qu'en passant le concours de l'internat, on valide le diplôme de médecin, c'est-à-dire qu'on est médecin mais pas docteur. Docteur, il faut avoir passé la thèse, mais on a le statut de médecin.
Très bien.
Voilà, c'est pour ça que les internes parfois ils vous disent je suis le médecin de garde, je suis l'interne de garde. En fait, on a le statut de médecin. Certes, on est supervisé, mais on a le statut de médecin. C'est-à-dire que moi, là, j'ai beau être interne, demain, je peux vous faire une ordonnance. Voilà, j'ai le droit de prescrire. En fait, le concours de l'internat permet le droit de prescription. Au-delà d'avoir la spécialité, ça change tout. On a le droit de prescrire. Alors, on est quand même sous la responsabilité d'un médecin senior, mais on a le droit de prescrire. Et donc, l'interne ne va plus à la fac, ne passe plus là, on n'est plus habitant. C'est-à-dire qu'on travaille 48 heures par semaine. Ça, c'est le temps légal des internes. Et donc, normalement, il y a 40 heures dans la semaine qui est dédiée au travail à l'hôpital, à voir des patients, à faire... des consultations, de la chirurgie si on fait de la chirurgie, et normalement 8 heures de formation autonome. Normalement, on a une journée par semaine qui est dédiée à la formation, soit autonome, soit à la faculté si on a des cours. Et nous, en l'occurrence, dans ma spécialité, on a une plateforme où il y a plein de cours qu'on doit regarder en autonomie. Mais vraiment, on devient salarié à part entière, on a un salaire de quelqu'un qui travaille à plein temps. on n'est plus étudiant. Alors, je m'inscris toujours à la fac, donc j'ai toujours ma carte d'étudiant à la fac.
Carte d'étudiant.
Voilà. Mais il faut le voir comme les gens qui font un doctorat, qui font de l'école doctorale. Voilà, ouais, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on est à plein temps à l'hôpital. On prescrit, on travaille. Moi, je ne me considère plus comme étudiante maintenant. Je me considère comme, comme quelqu'un qui travaille, qui est salarié, mais qui est encore apprenant. Hein, donc, je suis par contre toujours sous la supervision d'un senior. Et dans ma spécialité, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, je fais une spécialité qui est très à risque. Je ne me souviens plus de son prénom, mais l'infirmière anesthésiste qui avait...
Estelle,
Estelle qui avait témoigné dans ton podcast, elle a d'ailleurs bien expliqué que c'était une spécialité qui était dangereuse, où les choses pouvaient aller très vite. Et donc, nous, on est très supervisés. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment été tenue par la main le premier jour d'internat. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les spécialités plus médicales.
Ouais, bien sûr.
Ils arrivent, on leur donne un chariot, on dit voilà, il y a 15 malades à voir, je te laisse faire le tour et puis on en parle après. Nous, c'est pas le cas, déjà parce que on n'apprend pas à faire ni de l'anesthésie ni de la réanimation pendant notre externat. Donc moi, je suis partie de zéro, vraiment de zéro. C'est-à-dire que je ne savais pas me servir d'un respirateur, je ne savais pas intuber les patients, je ne savais pas faire d'anesthésie. Vraiment, je ne savais rien faire. Et donc nous, on nous tient vraiment par la main et progressivement, on prend en responsabilité. Par exemple, là, moi, je suis au milieu de mon internat. Ça fait un an que maintenant, j'endors un patient toute seule. Mais avant, je n'endormais pas un patient toute seule. C'est-à-dire que maintenant, j'endors des patients sans qu'il y ait un senior dans la pièce. Il n'est jamais très loin, mais il n'est pas avec moi physiquement. Mais ça, ça a pris plus d'un an, plus d'un an et demi. Pareil en réanimation, les patients qui sont très graves, le chef ne vous laisse pas tout seul parce qu'en fait, c'est des patients qui sont extrêmement critiques et en fait, ils peuvent mourir très rapidement, soit parce que l'interne fait une erreur, soit parce que son état est tellement grave qu'il nécessite des soins urgents. Et donc, nous, on est quand même assez privilégiés de ce côté-là. On est très bien encadrés. On respecte aussi nos temps de repos, comme dans l'aviation. Hein, elle en a parlé, Estelle, mais on fait effectivement beaucoup d'analogies avec l'aviation. C'est-à-dire que notre spécialité, on fait beaucoup de gardes. Moi, je fais en moyenne entre 4 et 6 gardes par mois de 24 heures, ce qui est quand même éprouvant de travailler 24 heures d'affilée. Alors, parfois, on peut aller dormir, mais il y a des gardes où... Parfois pas, mais on respecte nos temps de repos. C'est-à-dire que 24 heures de garde génèrent 24 heures de repos. On ne travaille pas. Et ça, c'est en semaine. Donc, parfois, j'ai la grande chance de ne pas travailler le mercredi parce que je suis en repos de garde. Donc, c'est une vie un peu en décalé.
Et ça, c'est respecté. Tu as la sensation que...
Ah, c'est obligatoire. Voilà,
c'est obligatoire. Ouais, et contrôlé.
Dans notre spécialité, c'est obligatoire parce que, à nouveau, avec cette histoire d'analogie avec l'aviation, etc. En fait, c'est l'anesthésie et réanimation qui a inventé le concept de repos de garde. C'est-à-dire qu'à un moment, les anesthésistes et animateurs ont dit, en fait... C'est dangereux de travailler plus de 24 heures. Déjà, travailler 24 heures, ça peut être un petit peu dangereux. Hein. Quand même, il faut... peut-être que ça évoluera encore, mais ils ont dit que c'est dangereux et donc il faut se reposer après. Et c'est les réanimateurs et les anesthésistes qui ont été un peu précurseurs en médecine, parce qu'avant, les gens ne se reposaient pas. Hein. Parfois, ils faisaient... Moi, j'ai des chefs qui m'expliquent qu'avant, ils commençaient à travailler le vendredi matin, ils finissaient le lundi matin. Et ils avaient fait tout le week-end en réanimation sans jamais sortir de l'hôpital.
Moi, dans la clinique dans laquelle j'exerçais, alors j'étais pas en réanimation, mais on avait tout le bloc qui fonctionnait le week-end avec les urgences et les soins intensifs qui continuaient de fonctionner le week-end. Et ils étaient de garde du vendredi soir au lundi matin.
Mais ça paraît...
Avec les urgences de la maternité, les césariennes toute la nuit, etc. Alors, on n'était pas dans un grand hôpital en termes de taille, mais c'était le seul médecin anesthésiste pour l'intégralité de la clinique sur 100-150 lits, quoi.
Ouais. Et c'est dangereux.
Mais c'est évident. Ouais.
Voilà, donc nous, nous c'est vraiment respecté. De toute façon, là, il y a un gros travail, hein, puisque les différents CHU sont en train de se faire épingler sur la loi européenne du respect du temps de travail des internes. Donc, c'est en train d'évoluer. C'est encore pas parfait. Mais je travaille plus que 48 heures par semaine, ça, c'est clair. Lycée, hein, parce qu'il y a des semaines où on travaille moins que d'autres, mais je travaille plus que 48 heures par semaine. Par exemple, le week-end dernier, j'ai été de garde vendredi 24 heures et dimanche 24 heures, donc avec 24 heures de ce repos de sécurité au milieu. Normalement, j'ai fini ma semaine de travail, parce que j'ai fait 48 heures, deux fois 24 heures, mais j'ai travaillé les jours d'avant et les jours d'après, parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un rythme de travail qui est très important, et c'est pour ça que d'ailleurs, je me considère plus comme étudiante, mais comme salariée, parce que je passe quand même beaucoup plus de temps à travailler qu'à réviser chez moi.
Qu'à réviser à la maison, ouais. Et est-ce que du coup, l'encadrement des externes t'incombe ou est-ce que toi, tu as ton fonctionnement autonome où tu apprends et les externes, eux, sont gérés par... les médecins qui sont déjà en place.
Si, il nous arrive très régulièrement d'encadrer les externes, et d'autant plus qu'on est plus proche d'eux, dans le sens où moi l'externat c'était il y a pas si longtemps, je sais un petit peu ce qu'il faut qu'ils sachent, et puis les autres choses où là je peux lui dire écoute, ça t'as pas besoin de le retenir parce que c'est propre à notre spécialité, si tu veux faire ça plus tard je peux te le raconter, mais moi j'essaye en tout cas. Alors au tout début quand je suis arrivée au CHU il y a un an et demi, c'était très difficile pour moi parce que déjà j'avais beaucoup de mal moi à bien comprendre tous les enjeux, à m'occuper des patients, ouais. Donc c'est pas facile d'avoir en plus un étudiant dans les pattes. Je me suis beaucoup excusée auprès de lui en disant écoute là je n'y arrive pas, peut-être va voir un de mes collègues qui est plus à l'aise parce qu'en fait là je n'ai pas le temps physiquement de m'occuper de toi. Maintenant c'est plus le cas parce que en fait j'ai pris mes marques et puis j'ai avancé aussi dans le cursus, donc je suis plus à l'aise. Mais régulièrement, oui, on a des externes avec nous. Mais moi, je suis très contente. J'essaye vraiment de transmettre ce que moi, on m'a transmis avec le plus de bienveillance possible parce que franchement, ça fait pas de mal un peu de bienveillance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour apprendre. Enfin, c'est pas en souffrant qu'on apprend mieux, même si pendant longtemps, en tout cas dans les études médicales, plus c'était dur, plus c'était bon, presque. Et je crois qu'il faut changer un peu ce paradigme. Et du coup, j'essaye en tout cas de leur transmettre des choses. Et puis aussi sur notre parcours, hein, comment préparer le concours, on se donne des petits tips. Voilà, ils me posent la question, je leur réponds.
Voilà. C'est chouette. Bon, pour tout le domaine de l'anesthésie, ça a été bien abordé dans l'épisode 45, donc je me permets de renvoyer les personnes qui écoutent cet épisode vers l'épisode avec Estelle, qui du coup, alors Estelle n'est pas médecin, elle est infirmière anesthésiste, mais on a beaucoup parlé voilà, de qu'est-ce que c'est que l'anesthésie, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, hein, qu'endormir un patient, c'est pas juste lui mettre un cachou dans la bouche, et puis une sonde d'intubation et on n'en parle plus, que c'est plein de risques, plein de facteurs, plein de paramètres. L'analogie voilà, avec le milieu de l'aviation, elle est là aussi. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans l'exercice de ta profession ?
Alors, on a une question qui est extrêmement variée. C'est sûr qu'Estelle a parlé spécifiquement de l'anesthésie, et c'est vrai que les infirmiers anesthésistes ont ce rôle propre. Nous, on est un peu plus transversal. C'est beaucoup plus large, puisque on peut... Donc, au sein de l'anesthésie, on fait aussi de la maternité, hein, tout ce qui est gestion des césariennes, de la péridurale, et aussi la sécurité des femmes au sens large pour toutes les autres pathologies qui peuvent être préexistantes à la grossesse. On a l'anesthésie et puis aussi on a l'activité de réanimation dont Estelle n'a pas parlé mais qui fait aussi partie de notre valence. Et au sein de la réanimation, on peut ensuite avoir en plus l'activité de déchocage pour les patients extrêmement graves qui nécessitent une prise en charge urgente, par exemple à la suite d'un accident de la route. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est extrêmement varié. Il faut avoir conscience qu'en anesthésie et réanimation, on est spécialiste de rien sur le plan médical. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pneumologue, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas urologue, enfin voilà. Mais je touche un petit peu à toutes les spécialités. On est à la fois en contact avec les chirurgiens et les spécialités médicales. Et je ne suis spécialiste d'aucun organe, mais je suis spécialiste du grave. Et donc, je suis spécialiste du grave en réanimation, c'est-à-dire tous les chocs. Hein, si ça saigne beaucoup, si le cœur va pas bien, s'il y a une grosse infection, ça, c'est notre spécialité. Et on est spécialiste en anesthésie de la prise en charge de la douleur aussi, hein, avec toutes les techniques qui existent aujourd'hui d'anesthésie loco-régionale. Donc, endormir un bras, endormir une jambe, s'il y a besoin. On est spécialiste de la douleur et puis d'endormir les gens, hein, quand même. Ça, c'est notre cœur de métier, de savoir endormir les gens, mais de savoir manier toutes les drogues qui vont autour. Et on fait aussi l'activité de consultation d'anesthésie, qui est très importante, dont Estelle n'a pas parlé, puisque a fortiori, il ne s'en occupe pas. Mais on est là pour anticiper, réfléchir aux patients de manière globale pour que tout son parcours de soins sur le plan chirurgical en vue d'une chirurgie se passe bien. À la maternité, pour que le séjour à la maternité se passe bien, sur tous les autres plans que juste la grossesse. Donc moi, c'est ce que je me souviens plus bien de ta question, mais en gros, ce que j'aime, c'est cette extrême polyvalence et à la fois nos spécificités du grave et d'endormir les patients et puis de gérer leur douleur.
Et quand tu parles de l'anesthésie, donc en effet, il y a toute cette pré-consultation qui est très importante pour savoir les antécédents du patient. Ça peut être voilà des détails, une dent qui bouge, qui va poser un problème pendant l'intubation, etc. Ensuite, on endort, ensuite on réveille. Et dans les suites post-opératoires, l'anesthésiste, il est encore là. Et ça, c'est déroutant pour les patients. Et j'ai envie de dire que c'est déroutant aussi pour les jeunes infirmières, où en gros, t'as le chirurgien qui vient voir son patient dans la chambre en post-opératoire et tu commences à lui raconter « Ah bah il a mal, ah bah il a ceci », et le chirurgien te dit « Non, mais moi ça m'intéresse pas, ça c'est l'anesthésiste qui s'en occupe. » Voilà. Et c'est difficile de comprendre comprendre quel corps de métier s'occupe de quoi. Si vous avez un manque de globules rouges post-opératoires, c'est l'anesthésiste qui s'en occupe. Si vous avez mal, c'est l'anesthésiste. Si vous vous infectez, ça intéressera le chirurgien aussi, bien sûr, mais ça intéressera beaucoup l'anesthésiste également.
Absolument. C'est vrai qu'on est assez peu connu pour ça. Et d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle anesthésie et médecine périopératoire. Et donc, ce terme désigne bien qu'on travaille avant, pendant et après. Et je milite, sachez que si vous devez voir l'anesthésiste avant une intervention chirurgicale, c'est pas juste pour le plaisir. Quand vous avez pas de problème de santé, c'est sûr que ça dure à peu près 5 minutes et vous êtes un peu déçu d'avoir patienté 45 minutes dans une salle d'attente. Mais pour tous les patients qui ont des antécédents médicaux, parfois des médicaments, c'est nous qui gérons les modifications du traitement, comment est-ce qu'on endort. Exactement. C'est nous qui réfléchissons aux stratégies d'anesthésie, c'est-à-dire que on fait une feuille d'anesthésie et on dit, on fera tel médicament parce que telle pathologie, on fera, par exemple, elle disait, soit on met un tuyau dans la gorge, soit on met ce qu'on appelle un masque laryngé, un dispositif au-dessus. Ça, c'est nous qui décidons et on y réfléchit en fonction de nos différentes stratégies et du patient. Et elle le disait très bien, Estelle, on fait notre petite popote, notre cuisine. Et donc, et effectivement, on travaille après pour la gestion de la douleur, les infections. Donc, on a une spécialité qui est assez transversale, mais qui est peu connue, un peu plus avec le Covid, mais c'est vrai que c'est assez peu connu. On se souvient de son chirurgien, mais pas de son anesthésiste.
Et pourtant, franchement, ça vaudrait le coup de se souvenir des deux, parce que c'est vrai qu'on soupçonne pas tout ça. Et alors moi, en tant que jeune infirmière, c'est un truc que je trouvais très difficile, mais qu'est-ce que je dis au chirurgien et qu'est-ce que je dis à l'anesthésiste? Enfin, quelles données vont intéresser l'un ou l'autre? Alors après quelques mois, voire quelques années d'exercice, ça devient très simple, mais au début, c'est un peu déroutant. Parce que on réduit malheureusement, je trouve, beaucoup l'anesthésiste à juste au fait d'endormir, éventuellement de réveiller, mais pas beaucoup plus. Et puis c'est intéressant ce que tu nous dis aussi, qu'il y a tout le versant réanimation. Alors là, on est encore dans un autre secteur, quoi.
On est encore dans un autre secteur, c'est une autre spécialité et c'est hyper varié. Là, on est en contact avec beaucoup d'intervenants. On s'occupe de situations très graves où il faut être très réactif. On a de la chance quand même un personnel en nombre, parce que c'est extrêmement réglementé. Donc, on a beaucoup d'infirmiers. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Et ça aussi, c'est une spécialité qui est extrêmement intéressante. Après, quand même, la plupart des médecins plus tard feront soit plutôt de la réanimation, soit plutôt de l'anesthésie, parce qu'en fait, c'est difficile de rester bon sur tous les versants, parce qu'en fait, comme je viens de le dire, c'est hyper large ce qu'on fait. Et donc, si on veut faire bien les choses, souvent, on décide de faire ou l'un ou l'autre. Ou parfois, on commence sa carrière en réanimation et puis on passe sur de l'anesthésie parce que quand même, les horaires de travail sont un tout petit peu plus légers en anesthésie. En tout cas, c'est plus facile de moduler. Et puis, il faut quand même avoir conscience que la réanimation, c'est des situations qui sont dures sur le plan médical parce qu'il faut beaucoup se creuser la tête, il faut prendre des prises en charge urgentes. Donc, c'est extrêmement énergivore. Je sais pas pour ceux qui font je parle pour moi, peut-être que ceux qui font 25 patients dans leur service, ils trouvent ça très dur. Mais en tout cas, c'est ce que nous on traduit, c'est que c'est vraiment très énergivore et c'est aussi des histoires de vie qui sont difficiles. C'est-à-dire que derrière chaque patient en réanimation, il y a des histoires graves, parfois des patients jeunes qui décèdent, parfois des histoires de vie qui sont difficiles et ça aussi ça prend beaucoup d'énergie à tout l'équipe qui s'en occupe et c'est parfois difficile de faire toute une carrière en réanimation parce que c'est très énergivore sur tous les plans. On ramène parfois un peu nos histoires de patients à la maison, donc c'est pour ça que parfois il y en a qui font de la réanimation puis qui rebasculent sur de l'anesthésie. L'avantage entre guillemets de l'anesthésie, c'est quand on a fini notre journée et qu'on s'est occupé de tous nos malades, globalement ils vont bien ou alors ils sont partis sur la réanimation ou des soins intensifs, donc on les a confiés à quelqu'un d'autre et donc on peut poser notre blouse et s'évader.
C'est vrai. Pendant tout l'épisode, tu as donné beaucoup de conseils pour les étudiants et y compris aussi pour les aidants, la famille autour. Donc merci pour ça déjà parce que c'est génial et je pense que ça en aidera beaucoup. Mais est-ce que tu aurais encore un conseil à donner à, je sais pas, on va dire à un lycéen, parce que qui est en train de voir cette montagne devant soi, qui a très envie de se lancer dans des études de médecine, pas forcément pour devenir anesthésiste réanimateur, mais est-ce que tu aurais encore un conseil à donner?
Je réfléchis, je pense qu'il faut, il faut se faire confiance, deux, il faut vraiment trouver sa méthode de travail et parfois essayer de pas trop écouter les autres et de s'écouter soi, parce que souvent on a la bonne réponse, d'y croire vraiment très fort et de s'accrocher très fort si on en a envie. Et si en fait on n'en a pas envie, il faut savoir s'arrêter parce que ça peut faire mal en fait. Et on a le droit d'avoir eu envie de faire médecine et de finalement pas faire. On a le droit de faire médecine et de finalement faire une spécialité que toute la profession considère moins prestigieuse, mais qui nous parle. Je pense notamment à la médecine générale, hein, qui est hyper décriée. Moi, je milite pour que ce ne soit plus le cas, mais d'autres spécialités qui sont peu connues, l'anatomopathologie, la médecine du travail, si on a envie. Et vraiment, je dirais qu'il faut... comment dire ça ? Je dirais qu'il faut ne pas écouter ce que toute la profession dit et sortir un peu de cet élitisme. Il faut faire... Enfin, moi, quand j'ai été bien classée à l'internat, on m'a dit « Ah bah super ! Du coup, tu vas faire de la cardiologie ou de l'ophtalmologie ?» Ah non, en fait...
Ouais, c'est pas parce se que détacher du classement sans cesse, quoi, qui revient sans cesse.
Exactement. Et de juste... Bah, et j'étais là, mais non, en fait, moi, j'ai envie d'être anesthésiste. Et je c'est pas parce que je suis bien classée que je vais faire un truc... et vraiment, on a eu ce discours-là. Et donc, il faut s'écouter. Et d'ailleurs, moi, le major de ma promo, qui était hyper bien classé, il a fait un pied de nez à toute la profession. Il a pris médecine générale en étant classé dans les 10 premiers à l'internat. Et merci, génial. Mon Dieu, merci Benoît, si tu m'écoutes.
Benoît, c'est
voilà, et vraiment il faut un, s'écouter, et deux, faire ce qu'on a envie, parce que c'est déjà tellement difficile qu'il faut faire ce qu'on a envie et s'accrocher très fort. Si c'est ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, il faut s'accrocher très fort, mais c'est vraiment des sacrifices, c'est vraiment des sacrifices. Ah si, j'ai juste oublié quelque chose pour ce petit lycéen. Moi, j'ai traversé des périodes très difficiles pendant mon externat, et pendant l'internat aussi. Il faut savoir dire qu'on va pas bien, et il faut, moi j'ai pendant très longtemps, et c'est encore le cas, entamé un suivi psychologique de fait que mon papa soit décédé, qui m'a beaucoup aidée. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de dire qu'on va pas bien et de se faire aider, hein. C'est pas parce qu'on soigne, et vraiment c'est des études qui sont difficiles à une période où on est encore jeune et on se construit, et il faut savoir dire qu'on va pas bien. Il y a eu beaucoup de suicides d'internes, beaucoup de suicides d'étudiants en médecine, et il faut pas rester tout seul avec sa détresse. Et en médecine, il faut toujours être fort, il faut toujours être au top. Et en fait, c'est vraiment ce par quoi on est élevé, hein. C'est très difficile.
Ouais, c'est l'injonction.
L'injonction d'être au top, tout va bien, non, il n'y a pas de problème, je ne vois pas où est le problème. Et vraiment, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont en difficulté, vraiment appelez à l'aide, parce que c'est hyper important, et on peut aller mieux. On peut trouver des ressources ailleurs. Donc vraiment, par pitié, appelez à l'aide et dites que ça ne va pas, si jamais c'est le cas.
C'est très important. Un grand merci Léa pour tout ce partage, c'est hyper intéressant.
Eh ben avec grand plaisir.
Ça fait déjà 1h36 qu'on parle, ça fera un tout petit peu moins en montage, mais je n'ai absolument pas vu le temps passer. Je pense que l'épisode pourrait durer encore le double au moins, tellement on a de choses à se raconter.
Je crois.
En tout cas, t'as l'air d'être à ta place et dans ce qui te plaît, donc t'es sur la bonne voie, hein, j'ai envie de dire.
C'est
encore
bientôt
quelques...
terminé.
Quelques années de labeur, mais t'es sur la bonne voie. J'ai encore quelques petites questions à te poser pour te connaître encore mieux dans d'autres domaines. La première question, que dirais-tu à la Léa d'il y a 10 ans?
Je dirais à la Léa d'il y a 10 ans que le soleil finit toujours par revenir. Hein, voilà. Et que peu importe les épreuves qu'on traverse, on peut y arriver. Et il faut y croire très fort et s'accrocher si notre rêve est au bout du chemin.
Belle pensée. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Eh ben plutôt lunchbox, mais comme j'ai pas le temps, c'est cantine. Donc je mange
dans l'idéal lunchbox.
Dans l'idéal lunchbox, mais malheureusement mon temps n'est pas infini, donc j'ai pas le temps de faire des lunchbox. Mais quand j'ai l'occasion et qu'il me reste un truc dans mon frigo, je l'emmène, parce que c'est quand même plus sympa. C'est très réconfortant de manger un truc qu'on aime quand la journée est difficile, mais j'ai pas toujours le temps.
C'est pas toujours possible. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
J'ai appris que la médecine, c'était pas comme dans les livres. Et voilà, les patients, ils nous donnent des symptômes, et parfois, ça correspond pas toujours à ce qu'on a appris. Et c'est tout le but de l'internat, c'est d'apprendre à faire les liens entre toutes les choses qu'on a appris, et que, en fait, c'est pas juste parce qu'on apprend l'hypertension, puis ça, puis ça, puis ça. Et là, il faut arriver à tout mettre en commun. Et parfois, les patients, ils ont plusieurs choses en même temps. Et donc, c'est ça que j'ai appris. Pendant le début de ma vie professionnelle, que j'avais pas appris pendant mon externat.
Très bien. Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou?
Alors, j'ai un petit peu cherché et j'ai mis Dans un autre monde de Céline Dion. Je ne sais pas si, voilà, je suis une fan de Céline Dion. Je ne sais pas si c'est très avouable. Mais voilà, Dans un autre monde, elle me rebooste beaucoup cette chanson. Voilà.
Elle n'a pas pris une ride, c'est vrai. question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
Alors, c'est difficile parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais celle qu'on m'a dit récemment et qui s'est fait partie de ce qui me touche le plus, c'était une patiente et il était 4h du matin et elle m'a dit « Merci de prendre aussi bien soin de moi alors qu'il est aussi tard ». Et voilà, ça rebooste pour les dernières heures qui restent de la garde et vraiment, c'est pour ça que je fais ce travail, donc voilà, c'est vraiment quand les patients me remercient juste d'être gentils, au-delà d'être leur médecin, ça me touche toujours beaucoup parce qu'ils sont pas obligés de le dire et du coup s'ils le disent c'est qu'ils le pensent, donc c'est un chouette compliment.
Carrément. Question suivante, ton meilleur fou rire au travail?
Mon meilleur fou rire au travail, c'est... à la fac, je n'avais pas réfléchi. Mais mon meilleur fou rire au travail, je crois que c'est à la fin de ma première année d'internat. Il y a une espèce de tradition où on bizute un petit peu les internes qui vont s'en aller. Donc, c'était ma dernière garde. Et donc, j'arrive. Il était 23h, je ne sais plus où j'étais partie. Puis, je reviens. Et les infirmières du service m'avaient prévu une espèce de truc d'accueil et donc je me suis fait asperger de tout un tas de liquides tous plus immondes que les autres, que les unes que les autres. Et s'il y a des gens qui sont dans le médical, je me suis donc fait doucher en partie au Normacol et le Normacol ça sent hyper fort et donc je me retrouve pleine de la tête aux pieds en partie de Normacol. Il y avait de la vitamine aussi, je crois qu'il y avait des hémocultures, enfin vraiment que des trucs qui sentent hyper fort. Et donc je repars dans ma chambre, parce qu'à l'époque j'habitais à l'internat, je repars dans ma chambre à l'internat pour me doucher. Mon chef m'appelle et me dit mais on va avoir une entrée, t'es où? Et je lui dis écoutez, je suis en train de prendre ma troisième douche et je sens toujours le Normacol. Et en fait je reviens, je m'occupe du patient et donc je devais ce qu'on appelle l'équiper, je devais lui poser une voix centrale et donc je m'habille en stérile et le patient il dit ça sent bizarre non? Et je sentais encore le Normacol et avec l'infirmière, donc on avait les masques, mais on pleurait de rire parce que effectivement, je sentais encore, c'était un fait. Voilà, donc on avait beaucoup.
Le Normacol, il se retrouve dans tous ces cocktails de départ. Je sais pas, ça doit être une question de texture, d'odeur, doit y avoir quelque chose de bien pénible qui du coup est très adapté pour les bizutages, mais moi je le retrouve très souvent.
Très souvent, et je pense qu'elle voulait me punir de tous les Normacol que j'ai pu prescrire, et donc nous on les prescrit, mais on ne les fait pas, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'il y avait une petite punition derrière.
Oui, parce que le Normacol est donc un lavement hein, pour les personnes qui nous écoutent. Donc voilà, ça se présente sous forme de bouteille. Je ne vous fais pas un dessin sur la façon dont on l'utilise. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose de très agréable à avoir dans les cheveux, notamment. Enfin, moi, pour l'avoir vu sur certaines collègues, je n'ai pas souffert du délit de Normacol, mais je l'ai vu sur d'autres personnes et c'est vrai que c'est pas très agréable.
C'est clair.
Et la dernière question, alors je l'ai un petit peu modifiée parce qu'écoute, cette question, elle a l'air difficile. Donc avant, je disais un titre de film qui résume ta carrière, mais maintenant, j'ai envie d'étendre un titre de film ou un titre de livre. Et tu as même droit de l'inventer si tu veux, mais qui résume ta carrière.
Et ben, donc du coup, j'ai été regarder dans ma bibliothèque avant-hier chez moi et j'ai trouvé ce livre que j'aime beaucoup en plus, enfin, cette autrice que j'aime beaucoup. Et donc le titre du livre, ça s'appelle « Qui ne se plante pas, ne pousse jamais ». Et l'autrice, c'est Sophie Talmen, qui est neurologue, qui écrit les livres. Et il y a toujours un interne dans ces histoires. Donc voilà, ceux qui aiment bien le monde médical, c'est des livres qui sont vraiment super. Et les premiers livres, c'est il y a Les yeux couleur de pluie. Il y en a plein d'autres. Donc il y a toujours un interne. Et c'est des livres qui font entre 200 et 300 pages. Hein, donc c'est pas des très gros livres. Et okay. Vraiment, je trouve qu'elle écrit avec beaucoup de justesse. C'est à la fois... feel good, enfin vous pouvez éclater de rire en lisant le livre et à chaque fois il y a toujours un message bienveillant et d'espoir. Et c'est pas sur des patients, enfin c'est pas sur des maladies, hein, c'est vraiment sur avec toujours un interne en médecine, mais leur vie, etc. Et franchement, j'adore cette autrice. Elle vient juste de ressortir un livre, je crois que je vais l'avoir pour mon anniversaire. Et vraiment, et là je trouvais ce titre de livre très adapté à ce que je vis en ce moment, puisqu'il m'arrive de me tromper, hein, et c'est aussi en se trompant qu'on apprend. Donc voilà.
Bien sûr. Ah ben, je mettrai la référence dans la description de l'épisode si ça intéresse des personnes. Oh, bon, ben, mille merci Léa.
Avec grand plaisir. Je ne pensais pas un jour témoigner, mais...
Merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir consacré un peu de ta journée entre deux gardes au travail. C'est vraiment adorable.
Eh bien, c'était avec grand plaisir.
C'était super de t'avoir à mon micro. Et je suis sûre que ton témoignage va aider beaucoup de personnes. Donc, merci pour ça. Et je te souhaite bonne continuation, Léa. Je te dis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais pu écouter Léa parler pendant encore de longues minutes. Je la remercie encore pour sa bienveillance et ses conseils à destination des étudiants en médecine ou de ceux qui ont ce rêve en tête. Merci à vous pour vos nombreuses écoutes et vos encouragements que je prends plaisir à lire au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.